Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul T à l'antenne et à mes côtés là. Alors ma main va traverser, mais on est à un océan d'écart. Ectelion, match retour. On était chez toi pour parler avec Fabrice de Donjons et Dragons 5. Et puis bah, tu reviens avec nous pour parler de Traveler. Vous voyez, j'ai fait une petite déco un petit peu spéciale. Comment vas-tu?
Et bonjour Mathieu, bonjour tout le monde, je suis très très content d'être sur Rollis TV avec vous aujourd'hui. Et ben ça va très bien depuis la dernière fois que nous sommes parlé.
Oui, ben alors, nous aussi on est très heureux de t'avoir. Un petit clin d'œil. Alors certes ça sera un café rolliste, il faut savoir qu'on enregistre un samedi soir pour moi, pour toi c'est l'après-midi et ça va être diffusé un matin. On est un petit peu comme dans cette notion du temps qui se brise et qui explose dans la science-fiction quand même.
Mais il n'y a pas d'heure pour le café. Moi, chez moi, c'est café à toute heure.
Bon, ben voilà, très bien. Il n'y a pas d'heure. Et puis aussi, il n'y a pas d'heure pour le café. Et puis, il n'y a pas d'heure pour parler des jeux que l'on aime. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de ce monument. Voilà, ce monument Traveler. Alors, on a déjà fait des liens. On a envoyé vers la très, très bonne vidéo d'Isocaèdre, les regrettés, qui avait fait beaucoup de choses dessus. Et tu es là pour nous en parler. Alors, on a déjà parlé avec les éditions Nemos de la VF. Mais c'est vrai qu'en France, on a l'équivalent d'un Donjons et Dragons qui nous est passé un petit peu inaperçu. Alors, je te laisse aller. Moi, je suis très, très heureux. Je suis à apprendre plein de choses. J'en connais déjà. Je vais pouvoir être corrigé et je vais surtout voilà, me sentir beaucoup plus intelligent sur Traveler après.
Mais il n'y a pas à se sentir mal avec Traveler. Donc, oui, Traveler, c'est vraiment un monument du jeu de rôle de science-fiction, tout simplement parce qu'il a pour réputation d'être le premier. Alors, je ne vais pas aller dans ce débat-là parce qu'il y en a certains qui disent oui, mais lui est en développement avant, etc. Mais il a pour réputation d'être un des premiers jeux de rôle sortis et le premier jeu de rôle de science-fiction, puisque Traveler, c'est un jeu qui date de 1977, pour les plus francophones d'entre vous, j'allais dire 77, mais 1977, et qui nous est parvenu à l'aide des éditions GDW, Games Designer Workshop, à l'époque où GDW ne faisait que du wargame. Et si tu me permets, parce que l'histoire est un petit peu est belle, j'aimerais bien m'attarder un petit peu là-dessus, puisque en fait, on remonte encore avant ça. Mathieu monte dans ma DeLorean et je t'emmène en 75.
Oula.
Où un jeu qui est sorti récemment, fait par lui, Donjons et Dragons. Et dans les bureaux de GDW aux États-Unis, il y a quelqu'un qui arrive avec une boîte de Donjons et Dragons. Donc ODD à l'époque, hein, puisqu'on est un an à peine après la sortie de Donjons et Dragons. Et à ce moment-là, chez GDW travaille une personne, Mark Miller, futur créateur de Traveler. Et l'anecdote vient de lui, puisqu'à l'époque, eh bien, tout le monde arrête de travailler, tout le monde joue à Donjons et Dragons dans l'entreprise, chez GDW. Et il y a eu une loi d'entreprise, une directive qui a été passée d'entreprise au bout de quelques temps, parce qu'ils étaient en retard dans les expéditions, dans les créations, etc. Il y a eu une directive d'entreprise en disant « Vous n'avez pas le droit de jouer à Donjons et Dragons tant que le soleil est encore levé. » Et les gens, Et les gens jouaient le soir jusqu'à 5h30 le lendemain matin à Donjons et Dragons pour continuer ensuite leur journée en étant complètement fatigués. Voilà.
Quelle époque ? Alors, GDW, c'est Game Designer Workshop, il y avait eu, lorsque Games Workshop arrive, il y avait eu parfois des confusions. Il y en a qui disaient, ouais, c'était des filiales. Non, c'était juste tout simplement des coïncidences de noms, enfin, je crois. Et donc, maintenant, évidemment, GDW, ça n'existe plus, hein, GDW. C'est Mongoose Publishing qui le reprend, mais je crois que je vais un peu vite.
Ouais, mais est-ce que tu sais pourquoi GDW n'existe plus?
Vas-y, dis-moi.
Alors, dans les années 90, un certain Gary vient taper à la porte de chez GDW parce qu'il vient de se faire un petit peu virer de chez TSR.
Mystic Journey.
Oui, voilà. Dangerous. Alors, à la base, ça s'appelle Dangerous Dimensions.
Oui.
Avant Journeys. C'est Dangerous Dimensions. Comme il s'appelle Gary et que son nom de famille, c'est Gigax, ça fait D&D. Si on rajoute le end, il n'y a pas le end à la base. Mais chez TSR, ils disent non, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Ça commence comme ça, TSR commence à s'intéresser à l'affaire. Et au final, c'est sorti sous le nom de Dangerous Journey, et il y a eu plein d'attaques, de procès. GDW.
Pour un jeu très mauvais.
Fait, oui aussi. Mais GDW se sont fait enterrer en fait par les avocats de TSR et ont beaucoup de poursuites et de choses comme ça. Et en 96, je crois que c'est ça, 96, GDW ferme ses portes par difficulté financière à cause de tout ça.
Mais parce qu'en plus, ce jeu-là, hein, c'était, je me rappelle quand il allait sortir, c'est oh, c'est Gargax, c'est un nouveau jeu. Le jeu arrive, on fait ouais, il y a quoi de plus en fait ? Et je me rappelle de linéaires de magasins où les magasins en avaient commandé plein. Je me rappelle de ces linéaires et il n'y avait rien qui partait. Parce que le jeu était. Voilà, n'avait. Voilà, c'était la fin, on va dire ça comme ça. Ah, effectivement, j'avais complètement oublié. Oui,
c'était ça l'histoire de la fin de GDW. Mais donc là, on est en 96, remontons un petit peu avant encore une fois, et nous voilà en 76 chez GDW. Il y a quelqu'un qui dit j'aime bien Donjons & Dragons, je vais envie de créer des jeux dans ce genre-là. Je ne me souviens plus exactement du nom de l'auteur, mais il sort En Garde, en français dans le texte. Ou En Garde, si tu veux, avec l'accent américain. Mais c'est En Garde, c'est un jeu sur les trois mousquetaires, et c'est un jeu épistolaire. C'est un jeu de rôle épistolaire, à une époque que je trouve formidable, j'adorerais aujourd'hui refaire du jeu épistolaire. Mais, donc il sort ça. Et chez Mark Miller, le futur créateur de Traveler, il se dit, l'idée est bonne en fait. Moi aussi, je pourrais travailler là-dessus, et en plus, il n'y a pas de jeu de rôle de science-fiction. Et... souvenez-vous qu'on est en 76, Star Wars n'est pas sorti encore. Et le truc, c'est que Mark Miller commence à travailler sur son jeu et il fait une copie en science-fiction de ce qu'il connaît, Donjons & Dragons. C'est pour ça que la première édition de Traveler, c'est une boîte avec trois petits livrets dedans. Et il a copié le
sobre, très sobre au niveau de l'illustration. Parce qu'on peut préciser, on est toute noire avec une bande. Voilà.
Toute noire, une bande rouge. Un texte imprimé dessus qui deviendra légendaire, qui est encore reprise aujourd'hui sur les versions de Traveler, avec l'appel, le Mayday du Beowulf, Far Trader, on pourra en reparler. Mais c'est. Voilà. Première édition est comme ça. Donc, il écrit son jeu entre 76 et 77, et le jeu sort officiellement en 77. J'ai pas réussi à retrouver la date exacte, mais d'après les interviews, etc., que j'ai pu voir de Mark Miller, ça sort un petit peu après Star Wars.
Alors, c'est vrai qu'on est dans une période. Hein. On a beaucoup de mal avec les dates. D'ailleurs, par exemple, là où on tourne, hier était officiellement les 50 ans de Donjons et Dragons, mais en fait, on a choisi le jour, parce qu'on était plus trop sûr. Et ça fait aussi partie de cette période qui était assez peu documentée. Et on se base souvent, quand il n'y a pas de documents, justement, sur les souvenirs. Et là, c'est là où ça flotte un petit peu. Alors, le succès est là.
Oui.
Et on va avoir donc une flopée mais de suppléments, qui ça se compte en centaines.
Oui, c'est des centaines et des centaines de suppléments qui vont à la base beaucoup étendre les règles, proposer de nouveaux vaisseaux, etc. Ensuite, les gens vont demander de plus en plus de scénarios. Et le cadre de jeu, lui, était déjà vaguement en place, très très vaguement, mais il va être de plus en plus affiné. Et les gens vont... C'était une boîte à outils, vraiment, et ça l'est toujours encore aujourd'hui, mais à la base, c'est vraiment une grosse, grosse boîte à outils, et les gens vont demander des scénarios à Mark Miller, et ils vont commencer à faire des scénarios pour Traveler, et c'est comme ça que certains des scénarios sont encore assez célèbres aujourd'hui. Ils sont encore joués, et ils sont encore remis. Et c'était transmis beaucoup dans une publication, c'était le Journal of Traveler Aid Society, donc c'était un magazine, en fait. Mm-hmm. À peu près l'équivalent, avec dedans du nouveau matériel, des scénarios, des choses comme ça qui étaient données à la communauté. Et donc,
on est.
Oui, vas-y.
Juste une chose, comme tu le disais, on est avant Star Wars.
Voilà, on est après.
Oui, non, mais voilà, le jeu commence avant. Et on a des sources sur l'impact qu'a pu avoir Star Wars sur.
En fait, aucun. Dans le développement du jeu, aucun. Mais l'impact du film sur les ventes, beaucoup.
Oui, voilà.
Ce sont des rumeurs, mais le jeu est sorti après, hein, juste après Star Wars, puisque à l'époque où ils envoyaient les boîtes en impression, ils étaient en train de terminer, etc. Mark Miller a été voir Star Wars par pur hasard, juste parce que quelqu'un lui a dit tu devrais aller voir ça, ça devrait t'intéresser. Et donc, quand il s'est retrouvé dans le film, il s'est dit tiens, en fait, je pourrais faire du Star Wars avec Traveler.
Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'ailleurs avec Traveler ? La question est posée, et puis surtout, elle est vite répondue. Bon, on y répond assez vite. Alors, juste un petit point, Ectelion, alors on rappelle, hein, c'est pas ton vrai nom. Donc là, tu es au Québec. Tu es d'origine française, donc tu es arrivé là-bas, tu es devenu... Et on a un nom particulier pour parler des expats français au Québec ?
Non.
Non, d'accord.
Non, juste les Européens.
Voilà, les Européens, d'accord. Voilà. Et ceux qui disent pas 90. Et donc, enfin, les autres.
Au Québec, on dit 90. Hein. C'est juste moi, par mon éducation, que j'ai envie de dire 90, 70, etc.
D'accord, mais... ok. Et donc, tu en avais entendu parler auparavant, mais en France, tu n'y avais jamais joué.
Non, j'y avais jamais joué. Je connaissais le jeu, mais il m'avait toujours fait peur. Je vais revenir dessus.
Oui, justement. Ah, c'est pour ça que je te pose cette question. Et là, donc, tu arrives au Québec. Hein, et on salue les Alouettes. Et petit clin d'œil. Voilà, on est obligé. Et comment ça se passe ton premier contact avec Traveler? Et surtout, comment est-ce que tu te rends compte de l'impact qu'a Traveler ou de la popularité de Traveler?
Mon premier contact, je te le présente.
Ouais.
Voilà, j'ai vu ça. L'écran de la deuxième édition de Mon Cousin. Hop, celle qui est sortie.
Attends, je te mets en format solo.
Si
on
la voit
bien.
Si on la voit bien.
Ouais.
Moi, je vois plus du tout ce que je vous montre là. Donc, dis-moi.
Alors, tu le remontes un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Et puis, un petit peu passer de droite à gauche.
Voilà. Donc,
on est à l'intérieur. D'accord.
Cette illustration qui est l'intérieur d'un vaisseau spatial avec le petit détail du petit dinosaure comme si on était les dés sur le rétroviseur. Cette illustration là, elle m'a profondément touché. Je suis un énorme fan de science-fiction. C'est mon genre préféré de littérature, etc. Et quand je vois cette illustration, je me dis, wow, un jeu qui... J'ai l'impression que je vais pouvoir y être. C'est bête, hein, mais parce que c'est qu'une illustration. Et c'est là que je me renseigne sur le... C'est quoi cette illustration? De quel jeu elle vient? On me parle de Traveler. Ça va être un jeu super dur, etc. On parlera peut-être après de tout cela. Et finalement, j'achète à ce moment-là le Core Rulebook, donc l'update 2022, va sortir et je le commande. J'ai les PDF avant et je peux découvrir Traveler et je me dis, au moment de ma lecture, je tombe amoureux du jeu, juste du livre de base. Et c'est ça mon premier contact. Ça a été vraiment l'écran qui était posé dans une boutique. Quelqu'un qui devait avoir une partie de prévue, ou je ne sais pas exactement, il y avait l'écran sur la table, personne. Et waouh.
Et ouais. c'est comme ça que tout commence. Tu te retrouves avec beaucoup de. Tu te retrouves avec quoi en fait Tu trouves tout de suite une table?
Pas du tout. J'ai mis vraiment du temps avant d'y jouer. Je l'ai lu, on était en fin d'année 2021, puisqu'il est sorti, je crois, en novembre 2021. L'update 2022, suivez toujours les dates. Mais on était en novembre et je l'ai lu jusque peut-être... j'ai mis plusieurs lectures et j'ai maîtrisé en fin janvier, au début février. Début février, j'ai commencé à maîtriser Traveler. Pour une petite table, et puis plus en plus, j'ai voulu faire de plus en plus de tables et maîtriser de plus en plus de scénarios.
Et comment t'arrive cette passion pour le jeu? Parce que là, on joue beaucoup, je veux dire, on joue tous. Et ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que tu en es arrivé à te jeter sur toute son histoire, son historique? C'est des rencontres ou c'est
sur l'historique, tu veux dire l'éditorial du jeu ou
Oui, c'est ça, tout à fait.
Ça, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire. Quand j'aime quelque chose, j'aime aller au fond des choses, que ce soit un groupe de musique, une équipe de sport, n'importe quoi. Je veux savoir un petit peu l'origine, l'historique, pourquoi est-ce que ça a tel nom, etc. J'aime connaître les choses. Et donc, j'ai simplement en fait regardé beaucoup de vidéos, lu des articles sur l'origine de Traveler, etc. Regardé les excellentes vidéos d'Icosaèdre aussi. Je ne connaissais pas avant quasiment qu'il ferme en fait, mais les vidéos de Traveler étaient très très bien faites et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage. La question, je pense qu'il faut vraiment se poser, parce que des jeux de science-fiction, il y en a beaucoup. J'en connaissais déjà pas mal. Il y en avait jamais aucun qui avait réussi à me séduire autant. Ça a été un véritable coup de cœur et je pense que la raison, il faut l'expliciter un petit peu parce qu'elle est propre à chacun, évidemment. À moins que tu avais des questions à me poser avant.
Non, justement, parce que moi, c'est ça que je veux voir, c'est comment est-ce qu'on peut se... comment est-ce qu'on rentre, ce que tu dis toi-même. Le jeu, au début, oh, ça me fait peur. Ce qui est la réaction, je pense, c'est la réaction normale de tout le monde. C'est la science-fiction. Donc, la science-fiction, c'est pas non plus le sujet qui, à chaque fois, est le sujet que l'on va maîtriser le plus ou qui fait. Parce que la science-fiction, ça fait peur, la science-fiction. Et puis là, c'est pour bien voir pour voir ton processus. Et justement, il y a peut-être des personnes qui vont dire, ah, c'est peut-être. Ok, je vais peut-être suivre cette voie. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça.
Il faut savoir que je suis un très grand fan de Star Trek. Star Trek, pour moi, c'est un monument. J'adore Star Trek. J'aimerais bien d'ailleurs tous les revoir. Aujourd'hui, ils ont un peu vieilli, mais j'ai toujours autant d'affection pour beaucoup des séries de l'époque. Et c'est quelque chose qui me fait rêver depuis que je suis tout jeune. Et là, tu peux me dire, oui, mais il y en a des jeux Star Trek.
Oui.
Oui, mais c'est pas Starfleet, etc. C'est pas ça qui me fait rêver. Dans Star Trek, ce que j'adore, c'est la découverte. Le fait d'être plongé dans des cultures totalement étrangères à la nôtre et qu'on doit comprendre parce qu'on a un problème qui peut être tout bête, du genre Will Wheaton a marché dans un bac à fleurs qui est sacré, etc., juste parce qu'il a dérapé. Et il faut se mettre à la place des habitants. Pourquoi est-ce que ce parterre de fleurs est sacré pour eux, etc. C'est des méthodes de pensée complètement étrangères à notre culture. Et il faut comprendre, il faut s'immerger et essayer de dénouer une affaire. C'est ça qui m'a toujours plu dans Star Trek, c'est la compréhension de l'autre et d'autres cultures. Mais le cadre Starfleet, etc., ne m'a jamais plus intéressé que ça. Et avec Traveler, c'est la première fois où je suis autant libre dans un cadre où j'ai pas un postulat de départ qui est très fort, toi c'est pas comme Eclipse Phase par exemple, où on a un postulat qui est très fort, on est très cadré, même si c'est un super univers, beaucoup moins au niveau des règles, mais c'est un super univers. Et bien avec Traveler, j'avais enfin cette liberté de pouvoir explorer tout ça, puisque le Chartered Space, pour en parler, je vais peut-être un peu loin, mais l'univers par défaut de Traveler, c'est un petit peu ce que je recherchais, c'est exactement ce que je recherchais, comme liberté, les différentes cultures qui interagissent entre elles, certaines sont très très différentes, les unes par rapport aux autres, ont des enjeux qui sont complètement différents, des cultures qui peuvent être considérées étranges par d'autres, et pourtant, tout le monde essaye de se comprendre, on n'est pas dans un univers où on va devoir automatiquement aller se battre et à la confrontation, on n'est pas dans des empires guerriers, on n'est pas dans tout cela. Mais là, je m'avance peut-être un petit peu, peut-être que tu aimerais...
Non, mais c'est très intéressant. Je vais te lire la critique, parce que c'est ce que je recherchais, si les personnes m'ont vu un petit peu bouger. Je n'ai pas mes chroniques d'Outre-Monde en papier sous l'homme, mais j'avais appris cela. Chroniques d'Outre-Monde était un magazine donc, des années 90, on avait eu Christian Lehmann qui s'en occupait, et ils avaient fait un numéro que je considère être peut-être le plus grand numéro de jeu de rôle sorti en France avec la Elite, qui était leur fameux numéro 6, dans lequel, époque bénie, ils recensaient tous les jeux de rôle. Et ils émettaient des critiques. Alors, des fois, c'était assez spécial. Alors, on regarde, je te lis la critique, tu me dis si tu es d'accord ou pas. Je pense que, alors moi-même, je ne suis pas d'accord. Donc. Un des tout premiers jeux de rôle, alors il est noté simulation 12, ambiance 14. Cote, il a 2 tentacules sur 4. Un des tout premiers jeux de rôle de SF apparu sur le marché, il en possède tous les avantages et tous les inconvénients. Un certain manque de cohérence, mais aussi un extraordinaire enthousiasme. Les règles assez simples au départ sont ouvertes, ce qui a permis à chacun de produire sa règle supplémentaire. Le résultat présente donc un ensemble de règles confuses et parfois contradictoires. Le plus gros problème de Traveler est son navrant manque d'imagination pour tout ce qui est technologie. Celle-ci n'est qu'une vague extension ou miniaturisation de la nôtre. Malgré tout, le jeu reste le plus joué dans ce thème et celui qui a le plus de support, que ce soit par les revues ou par la firme productrice. Qu'est-ce que tu peux dire à cela? Alors, la critique a à 30 ans.
Je suis plus ou moins d'accord avec la critique. Déjà, concernant les règles qui peuvent sembler touffues, je suis assez d'accord avec ça, sur le Classic Traveler. Donc là, on est sur les Three Little Books, Black Books, oui, donc c'est la boîte noire de l'époque. Ce n'est pas la version dont on vous parle aujourd'hui, celle qui est actuellement.
Oui, oui. Mais on parle de l'ancienne, hein, bien sûr.
on parle d'une époque où, comme tu l'as dit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suppléments qui sont sortis, des suppléments de règles, des suppléments de choses. Il y a des choses qui ne marchaient pas forcément entre elles correctement, des choses qui étaient mal équilibrées. Donc, effectivement, il pouvait y avoir un effet de confusion qui venait se créer si on parle des règles. Et même dans le bouquin de base, il y avait effectivement une certaine confusion. Moi, c'est une boîte que je n'ai pas, mais que j'ai achetée en PDF, parce qu'elle coûte énorme, vraiment beaucoup trop cher.
Oui, oui, oui. Si vous la trouvez dans une vente ou un vide-grenier, prenez-la discrètement et enfin, achetez-la et partez en courant.
Mettez un billet de 10 en disant ouais, voilà, c'est ça me fait plaisir.
Voilà, c'est pour la maison.
Mais oui, non, cette boîte-là, effectivement, au niveau des règles, pouvait être un peu confuse, mais le socle des règles, la base, c'est toujours la même aujourd'hui. Et peu de jeux peuvent encore se vanter d'avoir le même système à peu près.
Système AD6, tu peux nous le résumer très très rapidement, très
système AD6, en fait, c'est assez bête. Vous jetez 2D6 et vous allez ajouter un modificateur en fonction de votre caractéristique et de votre compétence. Modificateur qui excède rarement le plus 3, on va dire. Plus 2, c'est bien. Plus 3, vous êtes vraiment très très bien. Et la difficulté à battre d'origine, c'est 8. Ensuite, il peut y avoir des fluctuations au niveau de la difficulté. Plus ou moins simple, je crois que ça va jusqu'à 12, et donc avec 2d6 plus modificateur évidemment. Et là-dessus vient se rajouter une chose importante pour Traveler, c'est l'effet de votre jet. Donc si par exemple la difficulté est 8 et vous avez fait 10 avec vos dés plus modificateur, eh bien vous avez un effet de 2. C'est tout bête, mais tu vois, par exemple, si tu veux soigner quelqu'un, tu vas faire un jet de premier soin, donc tu vas acheter tes 2d6, tu vas ajouter intelligence médique. Ça va peut-être avoir un modificateur de plus 2. Donc, mettons, j'ai fait 8 avec mes 2d6, plus 2, je suis donc à 10. Mon effet est de 2 par rapport à la difficulté du jet. Et donc, je vais soigner la personne de 2 points.
Est-ce que dans les règles modifiées, il y a un moment où on peut lancer plus que 2d?
On peut jeter avec avantage, désavantage. Ça, c'est une nouveauté de la version. Tu peux jeter 3d, garder les deux meilleurs ou garder les deux moins bons. On comprend, je pense, tous ici l'origine de cette...
Ouais, un peu voilà. La cinquième a eu une bonne idée, et voilà.
Et tout le monde l'a reprise.
Et tout le monde l'a reprise, effectivement. Donc, alors ça, voilà, on a évacué tout ça. Et c'est avec juste ces deux petits dés. Et rappelons aussi une chose hein, qui est toute bête. On est en... Alors, je crois que je l'avais dit chez... quand on a reçu Frédéric Veil... 2D6, ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller dans un magasin de jeux de rôle. J'ai pas besoin de... Tout le monde peut avoir des dés pour jouer. Parce que c'est aussi... C'est à une époque, hein, au début, si on était loin de son hobby store, comme on dit, les dés, c'était pas forcément facile à trouver. Mais bon, même si aux États-Unis, la vente par correspondance, c'était autre chose par rapport à chez nous. Mais c'est vrai que on a ce système donc tout simple. Et effectivement, il n'y a eu aucun moment où on a fait, tiens, les grands chamboulements. Ce qui fait que si je prends Là, je veux jouer avec ma boîte que j'ai achetée ou que j'ai trouvée dans un vide-grenier, parce que quelqu'un dit « Oh, ça, c'est une boîte, elle est un peu abîmée, hein, que tu as acheté 5 euros. » Si j'ai envie de jouer avec, je peux toujours jouer avec.
Oui, il va y avoir peut-être des morceaux de règles de la dernière édition qui ne sont pas comme l'avantage, etc. Il va peut-être y avoir 2-3 petites choses qui vont changer, mais sinon, la base, c'est la même, exactement la même. Juste une précision au niveau des éditions de Traveler, si tu veux bien qu'on aille dans ce...
Oh bah oui, bien sûr.
Là. Traveler, c'est un véritable bordel au niveau édition. puisqu'il y a eu donc la période classique, c'est Classic Traveler, c'est celle de 77. C'est celle dans laquelle on est quasiment revenu pour les éditions Mongoose. Mais chez GDW, il y a eu plusieurs éditions de Traveler. Il y a eu Traveler New Era... etc., qui ont fait avancer un petit peu le, comment on dit en français, Metaplot, l'histoire, oui, l'univers du jeu, avec des histoires de rébellion, des histoires de virus informatiques aussi qui ont mis le bazar, etc. Mais ensuite, il y a d'autres éditeurs qui se sont emparés de Traveler, de l'univers, et qui ont mis leur système de règles dessus. Je peux te parler par exemple de GURPS.
Oui, ce que j'ai dit, oui.
Et voilà, il y a eu un GURPS Traveler où on a mis le système de GURPS, donc pas du tout le système de Traveler, mais dans l'univers Traveler. On ne fait pas jouer à la même époque, puisqu'à ce moment-là, ils ont décidé, et de façon... C'est vraiment très intéressant ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont revenus très très loin dans le passé. En fait, au moment des premières rencontres, ce qu'on appelle les guerres interstellaires en français, où l'humanité sur la Terre et l'humanité ailleurs, je pourrais revenir là-dessus si tu veux que j'éclaircisse ce point, se rencontrent.
Donc, on est d'accord. Alors, la Terre, est... c'était dans une galaxie très lointaine, je suppose.
Non, c'est notre Terre à nous.
D'accord, ok. Non, mais c'est justement... C'est notre... Ce que je vais expliquer pour les gens qui veulent, parce que là, tu sais, là, voilà, quand tu regardes les couvertures, tu dis quand même qu'on est un peu loin de notre bonne vieille Terre.
Oui. Oui, par contre, on est très loin dans le.
Oui, voilà. C'est ça.
Oui,
tout à fait.
Là, quand on joue actuellement, on est en 1100 à peu près. Mm-hmm. Ça, c'est la classic era. Ça veut dire que on est là, c'est loin, mais c'est quelque chose comme presque 3000 ans par rapport à nous maintenant.
D'accord. Et elle existe encore, cette Terre ?
Ah oui, elle existe encore. Elle est encore très puissante. Elle existe encore, elle est encore très puissante. C'est le Bastien. Tu vois la couverture qui est derrière moi, là ?
Oui.
Ça, c'est le bouquin Solomani Front. Et les Solomani, c'est les hommes de Sol, les hommes du système solaire. Et c'est la description. Donc, c'est les Terriens qui ont colonisé. Donc, ça, c'est les colonies terriennes. OK ? Les Solomani.
Alors, ce que Ectelion ne dit pas, c'est ce que j'ai pu voir avant, c'est... Il est entouré en hors-champ de suppléments Traveler.
J'ai pas mal de choses à vous montrer, oui.
Voilà, exactement. Et alors, justement, on va commencer à venir dessus. Donc, alors, tu nous as parlé donc, de cette époque classique. Tu nous as parlé de l'époque GURPS, en quelque sorte.
Ouais. Il y a eu Mega Traveler, il y a eu New Era, qui ont fait avancer un petit peu l'histoire. Il y a eu le GURPS, il y a eu aussi le Hero Traveler. Avec le héros système, système que je trouve affreux, je le dis publiquement.
Ah oui, là, le système Champions, oui.
c'est compliqué.
Je crois que c'est très américain. Je pense que c'est ça. Et on remarquera aussi que c'est un système AD6. Hein. Et alors moi, j'en ai plusieurs bouquins. Faut y aller.
C'est un système AD6 avec un S. Il y a beaucoup, beaucoup de D6.
Ouais, il y a beaucoup de D6. Puis alors, les créations de personnages, si vous pensez que Traveler, c'est long, celle ouais, de...
Ça, on en reparlera aussi. Mais il y a eu Hero Traveler et il y a eu d'autres éditions. Et ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2008, donc, Mongoose acquiert les droits de Traveler, font une première édition Mongoose avec une couverture qui reprend la couverture d'origine, sauf qu'elle n'est plus rouge, elle est verte de mémoire, l'édition Mongoose, elle est verte et c'est un très gros succès. Il y a eu beaucoup, beaucoup de suppléments pour cette édition en 2008. Et en parallèle de ça, et j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible, mais Mark Miller, le créateur de Traveler, eh bien lui fait aussi son édition Traveler. Et en 2019, alors que la V2 de Mongoose est sortie en 2016, en 2019 est paru la Traveler T5, donc c'est la cinquième édition de Traveler de Mark Miller qui est paru aussi. Donc aujourd'hui encore, on a encore deux éditions qui avancent en parallèle.
Alors on précise que... Alors pourquoi ? Parce qu'il s'est fâché, il a...
Je ne sais pas du tout, je n'arrive pas à trouver...
Et c'est le même système de jeu ?
C'est pas exactement le même. Le Mongoose est beaucoup plus accessible. Le T5 est un petit peu.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il il est quand même. Tu vois, il y a pas de guerre entre guillemets, vu que là, il est cité comme étant.
Il y a zéro guerre. Et d'ailleurs, Mark Miller, si vous le suivez sur son Twitter, etc., fait aussi de la pub et met en avant les produits Mongoose. Mais il vend toujours son T5 qui est, on va dire, plus classique. Il est en noir et blanc, il a les illustrations d'origine, il est vendu dans un slip case, bref, c'est tout un truc. Il vend ses PDF sur CD-ROM, sachez-le. voilà, c'est un quelqu'un qui a peut-être eu un peu de mal avec le 21e siècle, mais c'est quelqu'un avec qui j'adorerais discuter. C'est quelqu'un qui est plein d'années.
Et donc, nous en France, on a connu une version en français de Traveler. Bon,
celle de 2008, la Mongoose.
Voilà. Celle pour laquelle on pourrait dire traduire est un métier. Voilà, traduire est un métier.
Je tourne un voile putique dessus.
Voilà, exactement. Si et Traveler donc, continue son bonhomme de chemin. En France, alors on a eu, je suis obligé de le citer, les plus vénérables, Empire Galactique, Exception. D'ailleurs, je me pose toujours la question, hein, parce que finalement, il y a beaucoup de points communs, je trouve, cette notion d'empire et tout ça. Est-ce que François Nédélec connaissait Traveler ? Et il faudrait que j'aille demander aux personnes de l'époque qui pourraient peut-être m'aider. Après, la notion... Vas-y, pardon.
Il faut aussi rappeler que ce sont deux jeux qui se basent sur la SF, ce que j'appelle classique.
Oui,
et
c'est ça.
Et là-dedans, n'oublions pas de citer Dune, quand même, Frank Herbert. Il y a un empire.
C'est ce que j'allais rajouter, c'est que la notion d'Empire Galactique, c'est pas l'idée la plus extraordinaire de la science-fiction. Les gens vont dire, tiens, en fait, voilà, j'ai un truc, personne n'y a pensé auparavant. C'est juste, c'est ce que j'allais rajouter juste après. Ouais. Après, on a eu d'autres jeux. J'arrive pas vraiment, enfin s'il y en a eu quelques-uns, mais ils sont tellement épisodiques ou comme ça que j'ai pas franchement. Et dernièrement, on avait eu Mindjammer, où justement,
oui, c'est un
et qui voilà, donc c'est donc Mindjammer qui était sous un système Fate avec son là aussi sa, la communalité, et effectivement, elle a sorti une version Traveler de Mindjammer, donc ce qui prouve tout de suite, c'est un petit peu sortir la c'était un peu sortir la cinquième édition. Si on devait.
Si on Traveler est adapté.
Voilà, c'est ça. Et surtout, oui, qu'en plus, c'est que Traveler est assez facilement adaptable. Parce que c'est pas on n'a pas un système de jeu qui est avec des engrenages partout. Et donc, maintenant, est arrivée la nouvelle. Et très honnêtement, je me rappelle quand les éditions Mnemos me contactent, je me rappelle, je suis de retour de cours, je suis dans le bus et je reçois le mail. Et je fais waouh! Waouh!
Quand j'ai vu ça, je m'y attendais pas non plus.
Oui, voilà. C'était ça. Alors, on va maintenant un petit peu parler de Traveler. Donc là, tu nous as dit, en fait, on peut rentrer dans n'importe quelle. Enfin, par n'importe quelle porte, parce qu'il y a beaucoup de portes. Je vais te dire deux ou trois. Enfin, je sais pas, je vais te proposer deux ou trois phrases. Et tu me dis vrai, faux, tu précises, d'accord? Donc, Traveler n'a pas d'univers.
C'est vrai. Mais je peux préciser. Il a
vas-y,
c'est comme Donjons et Dragons. Donjons et Dragons n'a pas d'univers, mais il y a les Royaumes Oubliés à côté. Et les deux sont plus ou moins liés. C'est pareil avec Traveler, il n'y a pas d'univers, mais il y a Uncharted Space qui est l'univers officiel de Traveler. Toutes les aventures vont se dérouler dedans, etc.
D'accord. La création de personnages dans Traveler, c'est un vrai casse-tête, on peut même mourir.
C'est faux. Ça dépend de l'édition, mais aujourd'hui, c'est
mais c'est celle qu'on aura de toute façon. Ouais, bien entendu, c'est pour ça. Okay. On fait un petit peu la chasse aux préjugés ou non d'ailleurs.
Ok. Pour la création de personnages, alors on ne peut plus mourir par défaut dans la version Mongoose Update 2022 et même la deuxième édition. On peut plus mourir. Votre personnage peut être fortement endetté, il peut être blessé, etc. Il ne peut plus mourir. Il n'est pas forcément en meilleure forme, mais il ne peut plus mourir. Il y a une règle optionnelle dans le compagnon qui permet de rajouter cette option de mort à la création de personnage. Historiquement, Traveler s'est vraiment démarqué là-dessus. C'était, je pense, le premier à proposer cela. On pouvait mourir à la création de personnage tout simplement parce que la création de personnage de Traveler, vous faites la vie de votre personnage et c'est vous qui l'arrêtez quand vous voulez. Plus vous en voulez, donc plus vous voulez de compétences, etc., plus vous vieillissez. À chaque fois, c'est une période de 4 ans, et vous vieillissez en faisant la création de personnages. Si vous poussiez trop, il pouvait vous arriver des bricoles. Alors, même pas forcément obligé de trop pousser, vous pouviez avoir un problème lors d'une de vos missions dans la marine, ou des choses comme ça. Voilà. Donc, ce que montre Mathieu, en fait, c'est tout le processus que vous allez faire pour votre création de personnages. Et il ne faut pas prendre cette session de création comme une session de création, mais il faut vraiment la prendre comme une session de jeu. Si jamais ça vous intéresse, il y a une session de création de personnages sur ma chaîne qui est dispo. Elle fait 5 heures. Voilà, elle fait le 5 heures. On l'a fait pour l'actual play Secret of the Ancients qu'on est en train de faire sur la chaîne, mais donc les personnages ont été créés en live et ça fait 5 heures. Mais parce que les joueurs ont poussé loin. Mais c'est pas 5 heures chiant. Où on cherche dans des tables, des machins. C'est 5 heures dans lesquelles on construit une histoire ensemble.
Et vas-y, continue, parce que je vais
rebondir sur ce que tu veux dire. La création de Traveler, c'est vraiment ça. En fait, vous allez vivre la vie de votre personnage sur 4 ans, et à chaque fois, ça va vous apporter des choses en fonction des choix et des événements qui vont vous arriver.
Oui, parce qu'on joue dès qu'on crée la feuille de personnage.
Oui, on joue dès qu'on crée la feuille. Au moment où vous commencez la création de personnage vraiment, vous avez 18 ans et votre vie commence. Mais vous n'êtes pas aventurier à ce moment-là. Vous êtes quelqu'un qui va avoir sa vie, sa carrière, etc. Vous pouvez faire carrière en tant que marchand, en tant que soldat, etc. Vous avez des pages pour expliquer tout ça et les choses que vous gagnez, etc. Et à chaque fois, vous passez 4 ans comme ça. Ce qui fait qu'à l'époque, vous pouviez mourir durant cette création, et si vous poussiez trop loin, votre âge pouvait aussi vous affecter, vous pouviez mourir de grand âge.
Aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant, ce que tu nous précises, hein, excuse-moi, c'est que dans la rue, enfin dans ce préjugé, c'était ouais, on pouvait mourir, mais là, ce que tu nous précises et ce que je voulais entendre, c'est ouais, mais ce que c'était une sorte de garde-fou. Pour prendre un... En fait, on prend un risque avec son personnage à le pousser de plus en plus, parce que on commencera la première partie, il y aura peut-être un personnage qui sera beaucoup plus fort que les autres, parce que lui, il a réussi à faire ça. Et ça, c'est ça qui est important. C'était pas, tiens, on meurt là comme ça.
C'est ça. C'est pas on meurt comme ça. C'est vraiment, si t'as voulu pousser... Ça pouvait arriver quand même, faut avouer. Juste, événement, il s'est passé quelque chose de malheureux, vous êtes parti en mission et votre vaisseau a explosé, il y a eu une attaque, quelque chose, vous êtes mort. Bon, ok. Ça pouvait arriver, mais généralement, c'était plutôt parce qu'on avait poussé. C'était vraiment un garde-fou, en fait, la mort. Aujourd'hui, dans la nouvelle édition, si vous poussez vraiment loin, vos caractéristiques vont commencer à descendre, puisque vous allez vieillir et donc vous allez perdre en force. Donc, si vous voulez conserver des caractéristiques correctes, vous n'allez pas trop pousser. Et d'ailleurs, ça se voit dans la création de personnages qu'on a fait sur la chaîne, c'est que certains personnages ont commencé à avoir leurs caractéristiques réduites.
Là on arrête. Alors je tiens à préciser, donc là ici c'est le companion, que ce système là est, alors si tu as dit qu'il y a une règle pour mourir pendant la création, mais il y a aussi une règle dedans pour créer beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus classique ces personnages.
Avec un achat de points, en fait, vous avez un pool de points, vous achetez des paquets de compétences qui vont vous permettre de construire votre personnage sans avoir à faire une création de personnage longue. Moi, personnellement, je ne la ferai pas, cette création de personnage par achat de points, parce que c'est vraiment du jeu. Et c'est ce qui a été directement remarqué par mes joueurs, c'est que personne n'a écrit de background quand ils ont fait leur personnage. Ils ont fait leur personnage en live avec les gens et en vivant la vie. Et à la fin de la session, il y avait des histoires dans le groupe. Il y avait des personnages qui s'étaient construits. Il y en a un qui a eu une carrière d'écrivain célèbre. Ensuite, il a eu un crash financier. Enfin, il y a eu plein de trucs. Et au final, ils sont arrivés en jeu. C'est les personnages les mieux construits que j'ai jamais vus.
C'est ça qui est extraordinaire, d'ailleurs, je trouve, hein, dans Traveler. C'est ce parti pris qui était fait, parce que... À l'époque, parce que ça, c'était dès le début, cette création de personnages. Et quand on voit ce qu'était l'autre jeu d'en face, c'était Donjons et Dragons, où ces notions d'historique et tout ça n'existaient pas du tout. On rappelle qu'être elfe, c'était déjà une classe de personnages en soi. Donc, on a deux champs complètement opposé, et puis après de toute façon on se dit que quand on évolue dans un univers de science-fiction, effectivement c'est bien d'avoir toutes ces histoires. Et donc ça, si tu as d'autres choses à préciser sur ce que je viens de dire, c'est on peut mourir.
Non, sur la création de personnages non, mais vous pourrez trouver un t-shirt sur les internets, vous n'avez pas vécu tant que vous n'êtes pas mort durant la création de personnages, ça vient de Traveler. Voilà.
Traveler, c'est démodé.
C'est faux, c'est complètement faux. Ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend,
bien
de, vous,
sûr, mais...
ça dépend de vos goûts. Démodé sur quel aspect déjà? Si on parle d'univers, non, puisque déjà à l'époque, c'était un univers qui était assez visionnaire. Si aujourd'hui vous considérez que l'esprit, pas les séries, mais l'esprit Star Trek, c'est démodé, Traveler va vous paraître démodé. Si vous considérez que Dune, c'est démodé, ça va vous paraître démodé. Toujours pareil. Mais après, ça dépend ce que vous en faites, en fait. Au niveau de l'univers en soi, si vous intéresse pas, faites le vôtre. Ou jouez dans les univers qui vous plaisent. Le bouquin de base, c'est un ensemble de règles. Et les règles ne sont pas du tout démodées.
Comme c'est vieux, Traveler, on peut pas tout jouer.
Ah, ça, c'est encore plus faux. C'est plus faux, puisque Traveler, je précise à chaque fois, puisque tu m'as donné la précision.
Bien sûr, mais c'est toutes les bêtises que j'ai pu entendre sur ce Traveler.
C'est vraiment faux, puisque, et depuis toujours, depuis l'origine en fait, Traveler c'est à la base une boîte à outils, donc comme je disais, mais il y a des suppléments qui sortent pour aller dans telle ou telle direction suivant ce que vous voulez faire. De base, vous allez jouer des gens qui essaient de s'en sortir et qui veulent sortir du système pour X ou Y raison, ce sera à vous de les définir, mais vous voulez être libre. Vous en avez marre de votre petite vie.
Excuse-moi, quand tu dis sortir du système, c'est sortir
Du système de la société, je veux dire.
Oui, c'est ça, la société, d'accord. Okay. Ouais,
métro, boulot, dodo. Quoi.
Oui, ok. Avec un vaisseau.
Mais voilà, c'est des gens qui veulent essayer de monter quelque chose par eux-mêmes, monter leur compagnie, etc. Donc, vous allez, de base, jouer plutôt des marchands, des transporteurs, des chasseurs de reliques, parce qu'il y a, évidemment, il y a toujours une espèce qui était là il y a très, très, très longtemps et qui nous a laissé des reliques. Je pense que Mass Effect, c'est très, très inspiré de Traveller. Il y a beaucoup de choses de Traveller dans Mass Effect. Mais voilà, vous pouvez donc définir un petit peu ce que vous voulez faire, si vous êtes plutôt marchand, plutôt là. Vous pouvez aussi être mercenaire et vous allez avoir des suppléments qui vont orienter les choses, en fait, les choix en fonction de ce que vous voulez faire. Je peux montrer deux, trois choses si tu
veux. Bien sûr, tu l'as pour ça.
Mais la gamme Mongoose est vraiment construite comme ça. Si je vous montre par exemple cela.
Alors, je te mets en mode solo. Voilà. Ouais. Oh, c'est une jolie boîte là que tu as.
Ouais, c'est la boîte Mercenary qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est sortie l'année dernière ou l'année d'avant.
Pourquoi une boîte
Mercenary, c'est vraiment pour orienter vos campagnes sur le fait de jouer des mercenaires. Donc, on va vous expliquer comment ça fonctionne une compagnie de mercenaires dans le Chartered Space, toujours. Comment trouver des contrats, comment trouver tout cela. Et donc, vous allez pouvoir jouer vraiment des mercenaires avec toutes les options de règles qu'il faut. Et la gamme Mongoose est construite de cette façon. En plus de cela, vous allez avoir des aventures qui vont sortir à côté. Et vous allez avoir, aventure pour mercenaires, là, c'est la troisième, voilà. Et vous allez en avoir pas mal des aventures comme ça.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une boîte mercenaire ?
Pour les règles, il n'y a pas que des règles dedans, il y a des cartes, il y a pas mal de choses, c'est du contexte aussi beaucoup, on vous explique comment fonctionnent les compagnies, comment sont fondées les compagnies, il y a beaucoup d'informations sur l'univers, comment ça fonctionne particulièrement pour le mercenariat, et voilà, il y a aussi une aventure qui est incluse dedans d'ailleurs, il faut le rappeler. Mais après, donc, comme je disais, il y a les aventures qui sortent, là c'est juste pour la gamme. Enfin, c'est pas vraiment une gamme, vous avez compris. C'est orienté pour des aventures de mercenariat. Donc, Bug Hunt, on retrouve la référence à Aliens, évidemment.
Oui. Je pensais à du Starship Troopers également. Enfin, voilà,
oui, aussi. On a, et d'ailleurs, c'est clairement Starship Troopers. Ouais.
D'accord.
Mais voilà, vous allez avoir plusieurs aventures comme ça qui vont sortir. Et on va orienter comme ça. Il y en a une autre qui doit bientôt sortir, d'ailleurs, qui va être sur les chasseurs de primes. Qui n'est pas encore disponible. C'est l'ouvrage que j'attends le plus dans la game officielle.
Parce que on est, on l'a déjà dit, la série Firefly a été inspirée à la base par justement des campagnes que Joss Whedon faisait de Traveller.
Ouais.
Et
The Expanse aussi, pour un célèbre exemple, The Expanse, c'est une campagne Traveller.
Voilà. Et de toute façon, quand on voit les équipages, t'as l'impression que c'est effectivement c'est une table de jeu de rôle. C'est-à-dire chacun a sa fonction.
Pour The Expanse, c'est vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est que James A. Secoray, donc c'est deux... c'est quatre mains, c'est deux personnes. Ils ont fait une campagne Traveller. Les personnages que vous voyez dans la série, ce sont les PJ. Et pour la petite anecdote, je crois que je le raconte dans ma vidéo Traveller, mais il y a dans l'épisode peut-être 2 ou 3, il y a un personnage qui meurt, qui fait au début partie un petit peu de la bande. Mathieu, tu vois peut-être de qui je parle, et il meurt. Et pourquoi est-ce que ce personnage meurt ? C'est parce que le joueur a quitté la table.
Il meurt en plus ultra. Enfin, en fait, tu le vois pas venir. Tu comprends. Tu te dis, il est amené à avoir un certain.
Ouais.
Bing. Alors, de mémoire, je crois que c'était des jeux en forum.
J'aurais pas le détail.
Si je me trompe pas. Hein, si je me trompe pas dessus. Alors, donc, je peux jouer du mercenaire, je peux faire du alien, donc si je veux.
Du alien, évidemment. D'ailleurs, ça, on va parler après du compagnon, mais vous pouvez aussi jouer
Je te remets en solo, parce que c'est vraiment c'est superbe de voir tout ce que tu... Alors, c'est encore une boîte ?
C'est encore une boîte, oui, c'est beaucoup de boîtes. Et toi, Mathieu, qui est amoureux des cartes, c'est blindé de cartes dedans,
c'est ce que je joue.
Vaisseau. Là, c'est tout pour jouer du naval. Donc, si vous voulez jouer des campagnes plutôt orientées armées, vous pouvez prendre...
Genre la saga Vorkosigan ?
Par exemple. Et il y a aussi des aventures qui sont orientées donc dans cette gamme-là. Et à chaque fois, vous voyez, Naval Adventure, il vous faut ça. Il y a depuis... Ça, c'est une boîte qui est un petit peu vieille et vous voyez que le graphisme a un peu vieilli.
Oui, mais alors, j'ai une question à te poser. Est-ce que, par exemple, là, tu nous as montré ton scénario naval,
Celui-là, ouais.
Mais si, Cabal Adventure. Voilà. Est-ce que je peux l'acheter si j'ai pas la boîte?
Bah, tout à fait. Tout à fait. Hein. Vous pouvez le jouer. Là, les boîtes vont simplement vous rajouter de la précision sur. Ça va pas être des nouvelles règles. Ça va vous ajouter des compléments de règles optionnels si vous voulez. Ça va vous ajouter du matériel. Ça va vous ajouter beaucoup d'informations sur comment fonctionne ce thème-là dans cet univers-là. Mais si vous avez envie d'acheter ça pour le jouer, il n'y a pas de problème.
Alors, tu peux nous montrer une autre boîte? J'aime. Moi, j'aime découvrir. J'ai l'impression dans un magasin. C'est super.
Une autre boîte comme ça. Pour le thème, j'en ai pas. J'ai
d'autres suppléments. Vas-y. Montre-nous tout ce que tu nous as pris dans ta sélection.
Eh bien, écoute, ça, je reviendrai après là-dessus. Mais juste pour parler de. Tu parlais de Alien tout à l'heure. Vous savez, pour la majorité d'entre vous, je suppose que par exemple, dans le jeu de Free League, quand ils ont sorti le jeu officiel Alien, il y a une gestion du stress, etc. Eh bien, dans Traveler, ça existe aussi. Si vous téléchargez la feuille de personnage officielle Traveler, qui est extrêmement bien faite, d'ailleurs la V2 de Mongoose, elle est faite pour être en bouclette, donc pour être pliée. C'est une feuille horizontale qui peut être pliée, et elle est conçue pour être comme ça. Et Mathieu, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, moi je ne l'ai, pas là.
Attends, je suis en train de... Elle est, je suppose, dans le livre...
Non, il faut la télécharger. C'est un des points...
Parce que là, j'en ai une qui est...
Voilà, c'est bien. Alors là, on voit pas beaucoup, Mathieu. Si tu peux te mettre en plus grand, peut-être. Alors,
oui, parce qu'il y a un truc, c'est que j'ai pas mis ce que j'appelle mes implants oculaires. Autre nom, ça s'appelle mes lunettes. donc voilà, je me mets là, voilà, en voilà. Format solo.
Si on regarde les caractéristiques qui vont être c'est la V1 que t'as pris là, non?
Non, c'est l'updated. Alors, attends, je vais retrouver.
C'est pas grave, c'est une petite info, mais là où il y a les caractéristiques, c'est sur la gauche. Et en plus de ces caractéristiques-là, sur la nouvelle feuille Update 2022, il y a trois autres cases. Et ces autres cases ne sont pas utilisées par défaut dans le jeu Update 2022. Elles sont utilisées dans le compagnon.
Première fois à l'antenne de Rollis TV.
À moins que tu puisses me dire, est-ce que tu vois la case Sanity par exemple à gauche?
Alors, gauche case Sanity, donc je vois Intellect Social Equipment, je vois Wounds, mais je ne vois pas la notion de augmentation, armure. Ce qui pourrait déjà augmentation, hein, quand on dit qu'on ne peut pas tout jouer, ben, on se retrouve avec quoi donc? Ben, on se retrouve avec du cyberpunk et tout ce qui va être.
Et justement, j'y allais dans ces eaux-là, puisque donc, il y a trois autres caractéristiques qui sont des caractéristiques optionnelles qui sont décrites dans le compagnon, notamment le sanity, donc la santé mentale qui sert aussi de jauge de stress. Et ces caractéristiques optionnelles vous servent à émuler d'autres genres un petit peu. On va pouvoir avoir la luck qui va vous permettre de créer quelque chose d'un petit peu plus héroïque, donc c'est votre chance, voilà, pour faire deux trois choses, pouvoir relancer, que ce soit un petit peu plus facile. Et tout ce qui va être donc sanity, la santé mentale, votre équilibre mental plutôt, eh bien, va vous permettre de jouer sur le stress et aussi sur tout ce qui peut être cyberpsychose. Si on prend référence en cyberpunk, eh bien, vous allez jouer avec cette jauge là. Et c'est comme ça que dans Traveler, on peut jouer absolument tout ce qu'on veut avec. Grâce à ces modules optionnels, en allant chercher du côté de la sanity pour les augmentations, pour la peur et ce genre de choses. Il y a des scénarios qui mettent ça en scène. Il y a des scénarios de Traveler officiels qui sont orientés horrifiques. Vous n'avez pas joué Alien, mais à peu près dans le même genre.
Alors, j'ai une autre question. Ouais, dans Traveler, il y a trop de races. Exo, ce que j'aime. Extraterrestre. Alors, le problème, on ne peut plus dire extraterrestre parce que ça veut dire qu'on est en dehors de la Terre, mais donc, mais comment.
Non,
Xeno. Xeno. Il y a trop de Xeno dans Traveler.
C'est vrai, c'est tant mieux. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans Traveler. Les plus terre à terre d'entre vous vont peut-être y trouver un côté un petit peu cantina. C'est quelqu'un qui m'avait dit ça, le côté cantina. Et tu vois, donc Star Wars, tu ouvres une porte et tu as à chaque table une espèce différente. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Traveler. Mais voilà. Alors là, pour le coup, ça, c'est des créatures que tu peux rencontrer. C'est plutôt le bestiaire.
Oui, non, mais non, c'était juste pour dire, parce qu'il y en a une. Alors là, il y a une espèce de. Il y a le Sesquipin, qui est une créature volante de l'espace. Et puis, il y en a une où. il faut une certaine... C'est l'Equib Ukidé, parce que tu as quand même l'impression que c'est un homard géant.
Oui, 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 c'est beaucoup de...
Mais surtout, c'est, je crois que ce qui ne le rend pas hommage, c'est le fond. Le fond, quelque chose qu'on a l'impression que c'est un homard qui vole, en fait. Hein, donc,
un homard volant. Mais voilà. Regarde, si par exemple, tu peux peut-être me mettre en grand, ça se verra.
Bien sûr.
Cette créature ici, qui a un nom imprononçable ici, le Honi Bito Ponti, les murmureurs, eh bien, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est pas une créature de bestiaire forcément. Ça peut être quelqu'un qui joue autour de la table.
Ça doit pas être évident quand tout le monde doit s'asseoir et mettre sa ceinture de sécurité.
Non, c'est sûr, mais tout est décrit pour ça. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Je vais faire un parallèle qui peut peut-être être démonté, mais Donjons et Dragons. Prenons un centaure. Vous allez jouer un centaure dans Donjons et Dragons. À aucun moment, on vous explique comment il fait pour aller dans l'auberge. Est-ce qu'il y a des chambres spéciales pour les centaures? Comment est-ce qu'ils mangent? Comment est-ce qu'ils s'assoient dans une auberge? Ça m'a toujours gêné. Je ne comprends pas comment fonctionne cet univers. Et d'ailleurs, j'ai une joueuse qui voulait jouer un centaure à un moment qui m'a dit « Je ne vois pas comment c'est possible, laisse tomber. »
C'est la même chose aussi, c'est comment est-ce que ce dragon a fait pour rentrer au bout de ce donjon. Voilà,
bon, c'est une pièce fermée, accessiblement par un tunnel de 2 mètres par 4.
Ouais. Pas compris, mais bon.
À l'époque, il était bébé, ils l'ont fait.
Oui, ouais, c'est ça, ils font des élevages.
Mais ce point-là m'a toujours gêné. Dans Traveler, quand on vous présente une espèce qui est jouable, grâce à des bouquins comme celui-ci.
Alors. Il est gros celui-là.
Alors les bouquins, mon goût, sont très gros, mais ils n'ont pas forcément beaucoup plus de pages qu'un bouquin classique. C'est le
celui-là, il a plus de pages que les règles.
Oui. Ouais. C'est Aliens of Charted Space, volume 3. Hein. Donc ça, c'est des compendiums de créatures que vous pouvez jouer. Par exemple, dans ma campagne actuellement en Actual Play, vous avez un Boap ici. Voilà, un boap, c'est ça, c'est une espèce d'homme lézard. Et donc, je disais, quand on va vous présenter des créatures jouables, et je reviendrai sur ce que vous voyez là et là, quand vous avez des créatures jouables, eh bien, on va vous décrire toute la société, comment elle fonctionne, ce qu'ils mangent, comment est-ce qu'ils vivent, leur interaction avec les autres. Et ça prend des pages et des pages et des pages. C'est pas juste qu'il y a ça.
Alors, ça me fait penser. Alors, moi, en tant qu'amateur de science-fiction, c'est pour ça que moi, The Expanse me parle beaucoup, Firefly également, j'aime beaucoup. Quand c'est uniquement des
humains.
En fait, quand c'est très 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 humano-centré. Eclipse Phase. À un moment, il y a eu un contact, mais en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que bon, on parle plus trop. Voilà. Et ce qui est bien entendu pour ceux qui veulent que de l'humano-centré, on peut juste mettre on peut mettre sur le côté. Mais la question est-ce qu'il y a un moment dans le bouquin? On fait des allusions, enfin, il y a des conseils de jeu ou par exemple des conseils de bouquins à lire si on parle d'une race ou si on parle d'autre chose.
Ça peut arriver. De base, dans le livre de règles, on va partir du principe que vous jouez des humains. Et donc, les carrières qui vont vous être présentées, tout ça, ça va être humano-centré. Là, c'est vraiment spécifique au Charted Space. Voilà, c'est l'histoire de ces créatures-là dans le Charted
Space. Alors, précise que tu emploies à plusieurs reprises le terme Charted Space. Ouais, c'est donc c'est en fait c'est là où il y a eu les cartes, c'est là où en fait on
cartographie l'espace connu.
Voilà, c'est l'empire qui s'étend. Ah là on sait. Voilà.
C'est pas forcément l'empire.
Oui.
Il y a des gens qui s'étendent. C'est une partie du Charted Space.
Voilà. Il y a des gens qui s'étendent, c'est-à-dire qu'on va à la découverte de l'espace avec des cochons dans l'espace. Ah,
Mathieu, une autre boîte.
Allez, on y va, une autre boîte. Vas-y, c'est laquelle celle-là?
J'en parlerai parce qu'il y a une campagne, mais j'en parlerai. Mais donc, pour finir là-dessus, vous pouvez jouer énormément de choses, notamment des dauphins et des orques, par exemple. Oui, il y a des dauphins. Il y a même deux types de dauphins différents dans le Third Imperium, enfin dans le Charted Space, puisque il faut savoir que tout à l'heure, je disais, il y a une ancienne espèce, une ancienne race, qu'on appelle les anciens d'ailleurs, qui étaient là il y a très très longtemps, qui ont disparu depuis, peut-être. Vous le découvrirez peut-être dans une campagne. Mais ces anciens-là sont venus sur Terre il y a très très longtemps et ont pris des spécimens de différentes espèces, notamment des dauphins, des orques et des chimpanzés aussi, et des humains. Et ils les ont déposés ailleurs.
Alors, c'est très David Breen.
Là, ça me parle pas.
C'était laquelle saga de l'évolution? Non. où il y en a... Oula, je deviens très sombre pour le coup, tu vois, c'est quand je réfléchis. Donc, on oubliera ça. On oubliera... je reviendrai dessus. C'est la saga où ils envoient vers le soleil et puis on se retrouve avec... Je vais te dire pourquoi. Est-ce qu'il y avait eu dans... J'avais fait une critique Eclipse Phase qui parlait de ça, ou avec justement toutes les races, avec les chiens, les chats, les... Okay, et c'était là où...
Je regarderai parce que ça m'intéresse. Le... Attends.
Oui, je suis désolé.
Et les anciens sont venus et ont récupéré donc 2-3 espèces, mm-hmm. les ont envoyées ailleurs. C'est comme ça qu'on se retrouve avec plusieurs humanités. Donc c'est vraiment des humains. C'est pas comme dans Star Trek où c'est des xénos qui ont évolué pour ressembler à la fin à plus ou moins des humains. Là, on est vraiment, c'est des humains, mais ils ont évolué de façon différente. Ils ont des cultures différentes. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est le cas aussi, par exemple, des dauphins. Je disais, il y en a deux parce qu'il y a des dauphins qui ont été pris par les anciens et il y a des dauphins qui ont été, Mathieu, uplifted, donc augmentés.
Oui, c'est ça. Ils ont évolué, puis.
Ils ont été évolués de façon génétique par les humains.
Voilà, c'est ça. On dira augmenté.
Longtemps, c'est les humains qui ont fait des expériences dessus pour s'en servir, notamment sur les dauphins, qui sont d'ailleurs, vous le saurez, de grands poètes et de grands dramaturges. Qui aujourd'hui une culture au centre autour de la poésie.
C'est ça qui est intéressant, parce que quand même, il y a plein de petits côtés où on peut se prêter à sourire, hein, parce qu'évidemment, un dauphin sur scène, pas forcément évident. Mais voilà, ça aussi, ça montre que si on veut mettre ce que le côté cantina, ça a un petit côté, voilà, c'est là pour faire sourire. La fameuse, t'as pas une gueule de porte-bonheur, mais c'est ça dans Predator, je confonds. Ouais, quand il dit, oui, mon pote, t'as pas une belle tête, mais c'est. On a vraiment tout ça, c'est-à-dire que je peux aussi bien être dans le côté très politique, je peux être dans le côté tout va s'effondrer, ou ce côté très terre-à-terre. Alors,
tu vois le genre de choses au niveau des dauphins, ils t'expliquent comment un dauphin fait pour se déplacer à côté d'autres bipèdes, etc. Tout ça, c'est expliqué. Voilà, quand il se déplace dans des couloirs, etc., il a son équipement.
D'accord.
Ça rend le tout quand même très crédible. On t'explique les villes et tout ça. C'est vrai que c'est jamais grotesque et ça prête jamais à sourire. Enfin, ça prête à sourire quand tu l'expliques. Et, aussi. Mais c'est crédible dans l'univers.
Oui, quand tu joues.
Après, si c'est un point que tu veux complètement oublier, tu l'oublies et tu peux jouer juste humanocentré si tu as envie.
T'en as combien de suppléments
En Kallax ouais. Une rangée complète d'une grande Kallax, j'en ai beaucoup. Ouais. Je suis entouré par des bouquins Traveler. Alors, il faut savoir que j'en ai acheté une bonne partie, mais que je travaille aussi avec Mongoose directement. Je suis en contact avec eux et ils m'ont envoyé des livres aussi. Voilà, je discute régulièrement avec Matthew Sprange, le directeur de Mongoose. Voilà.
Monsieur. la passion, voilà.
Et je suis rentré en contact avec eux pour l'actuel play. Ils m'ont aidé notamment à parler de Traveler en français. Ils m'ont aidé. J'ai le droit, par exemple, d'utiliser les musiques officielles parce qu'il y a des musiques officielles Traveler. Donc j'ai le droit de les diffuser sur ma chaîne YouTube, par exemple.
Ouais, ça, on va faire un relais. Oula, ta caméra vient d'accepter. Alors. Il y avait une boîte là que tu disais que c'était une campagne, parce que là aussi l'autre idée préconçue, c'est de toute façon il n'y a pas d'histoire.
Ça c'est faux, ça c'est voilà. Entièrement faux. Attends, je vais juste recentrer la caméra.
Vas-y. Attends, pendant ce temps-là, je vais faire des claquettes et puis donc montrer. Moi, j'aime beaucoup cette couverture là. Comme je l'expliquais, je l'aime beaucoup parce que on est dedans. On a donc à cette table, donc on a effectivement. Tu peux me donner le nom de cette.
Je pense que c'est un bois pourvu des vêtements, etc. C'est un bois.
Oui, il est dedans. Ça fait partie de la race Xeno qui fait partie de la race courante en quelque sorte.
Elle a été refaite dans le Alien from of Chartered Space, mais oui, elle est déjà présente dans le Compagnon à la base. C'est une chose qui est assez importante.
Oui, et je crois même qu'elle est dans le. Sur les deux, parce que maintenant, j'ai passé pas mal de temps à faire des. Voilà, on la retrouve voilà, ici.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un boîte.
Donc, on a ce compagnon moi, que je trouve très très bon. Alors, on sait que normalement dans les projets, on va y avoir une saison, donc on va avoir la VF donc, de cette édition updated. On va ici avoir également le Companion. Et après, les éditions, en fonction des paliers, on va proposer très certainement des campagnes. Je le dis tout de suite, nous n'avons pas d'informations. Mais toi, il y a des campagnes dont tu peux...
Oui, il y a des campagnes dont je peux vous parler parce que je les ai lues pour la plupart. Il me reste une à lire, Project Prometheus ou quelque chose, Order of Prometheus, un truc comme ça, que je n'ai pas encore. Celle-là, il faut que je l'achète. Mais une des campagnes qui est assez connue et qui est une réédition d'anciens suppléments. Il faut savoir que Mongoose joue beaucoup sur le passé de Traveler et réédite ou augmente des choses qui ont déjà été faites. Alors, déjà, une petite précision éditoriale sur les ouvrages. Je cherche mon livre de règles que j'ai ici. Quand vous avez des suppléments de règles, ça va être une icône ici, comme cela.
D'accord.
Ici, okay. Vous avez une petite icône, ça veut dire que c'est de la règle. Ok.
Mm-hmm.
Quand vous avez des suppléments d'univers, vous allez avoir un triangle qui est ici.
D'accord.
Ça, c'est univers et c'est généralement Chartered Space.
Alors là, tu vois, je regarde. Hein. Le core rulebook, c'est 0-1. Bon, ok, j'ai pas raté d'épisode. Et le Companion, 5. Il y a eu 4 suppléments.
Il y a eu d'autres choses à fond. Il y a eu aussi des suppléments, des catalogues d'armes, etc. Je ne sais plus quel numéro, mais il y a Highguard qui est un catalogue de vaisseaux spatiaux. Il y a eu je ne sais plus le nom exact, mais c'est un catalogue d'équipements qui sont arrivés, je pense, avant le Companion, qui sont en train d'être refaits d'ailleurs en update. Le catalogue de vaisseaux a déjà été refait. Le catalogue d'équipements vient de paraître en update 2024. Je ne sais pas si le Companion va être refait. Ouais. C'est possible, je ne sais pas.
Oui, effectivement, c'est une bonne... Alors, l'aventure dans le futur lointain. Mais alors, on précise hein, encore une fois, j'aime beaucoup ces variations de couleurs, d'obscurité. On précise, hein, si vous avez l'ancienne version, elle tient toujours, elle ne va pas faire erreur 404, c'est juste, hein, on a mis un petit coup de toilette sur donc des errata, on a mis quelques dessins, on a un petit peu changé la disposition et la maquette. Hein.
Ouais, la maquette qui a été vraiment éclaircie. Il y a eu un chapitre qui avait été retiré dans la deuxième édition, dans celle que tu as derrière toi, qui a été remis. C'est celle sur la construction de vaisseaux. Je pourrais reparler des règles après, mais voilà. Non, je vais déjà reparler de ça. Ce sera expurgé. Il faut savoir que Traveler, pourquoi est-ce qu'il me faisait peur à l'origine et pourquoi est-ce qu'il fait peur à beaucoup de monde? C'est qu'il y a beaucoup de mini-systèmes pas utiles en partie. Par exemple, la création de personnages prend une bonne partie du bouquin, avec toutes les carrières, etc. C'est un mini-jeu en soi. Comme je l'ai dit, c'est une session, voilà, c'est une session de jeu où on fait la création de personnages, c'est un mini-jeu en soi. Il y a la section dans laquelle on va créer les vaisseaux spatiaux. Donc, on va aller acheter de l'équipement, on va aller mettre des pièces... Bah tiens, Mathieu, t'aimes bien utiliser la guirlande de Noël, de sapin de Noël. Ouais. Et bah, c'est exactement ça. On vient prendre la base... Et on vient brancher ces lampes dessus pour construire soi-même son vaisseau. On peut prendre ceux qui sont déjà faits, mais si vous avez envie de construire votre vaisseau, vous avez tout qui est pour ça et des suppléments qui sont là-dessus pour ça. Et donc, quand ils ont sorti la V2, celle que tu as derrière toi, ils avaient retiré cette partie construction de vaisseau en pensant la mettre dans un supplément. Et c'est pour ça que ça a été réajouté dans l'update 2022 parce que les gens avaient un petit peu gueulé. Parce qu'il y a beaucoup voilà, de morceaux.
En président, et c'est l'update hein, qui va être traduite. Hein.
Va être traduite. Et au niveau des autres on va dire, morceaux de système qui peuvent faire peur mais qui sont optionnels, comme Traveler, c'est une boîte à outils et que les morceaux sont là pour faire les campagnes qui vous plaisent. Si vous avez envie de jouer des campagnes de marchands, vous pouvez. Il y a toutes les règles dedans, donc des règles de spéculation de marché, où est-ce que je vais vendre et acheter telle ou telle marchandise, comment calculer pour le MJ la valeur de revente, etc. C'est dans le bouquin, mais attention, c'est pas des choses qui sont obligatoires. Si vous avez envie de faire une campagne orientée sur l'exploration, mais que vous perdez à chaque fois 4 heures à calculer comment revendre la marchandise qu'on a accumulée, parce que Traveler, c'est aussi un jeu dans lequel on a besoin d'argent, parce que faire le plein du vaisseau, ça coûte beaucoup d'argent, entretenir le vaisseau, ça coûte beaucoup d'argent, et donc il faut toujours essayer d'optimiser un petit peu vos trajets, et bien pour ça, on remplit sa soute et on la vide à un autre endroit. Et donc, tous ces morceaux de règles, qui vont rajouter un brin de complexité sont totalement optionnels. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne les prenez pas. Et c'est explicité dans le bouquin. Donc, je reviens sur mes campagnes. Je vous parlais justement de différents scénarios, différents...
C'est même pas la boîte. Il y a une belle boîte là que tu nous avais montré.
Jamais. Attends, ça, c'est la grosse, grosse campagne.
D'accord.
Ce qu'on sait qui va être traduit par Mnemos, déjà, c'est cela, Behind the Claw. Ça, c'est un supplément de contexte. C'est la base pour jouer dans le Shattered Space. C'est vraiment les secteurs, comment ça fonctionne, les communications, etc. Mmh. Il y a énormément de choses à faire juste avec ça. Et ensuite, au niveau des campagnes, eh bien, je vous parlais de
marchand. On rappelle, ça s'appelle Derrière la griffe, en français.
Au niveau des campagnes, eh bien, vous avez par exemple celle-là qui est une campagne orientée marchand, qui s'appelle Skandersvik. Et non, ce n'est pas un meuble Ikea. Skandersvik, c'est une campagne dans laquelle vous êtes à bord d'un vaisseau marchand et on vous demande de faire en gros un tour et de faire le meilleur le meilleur run possible.
Oui, bah, en fait, le meilleur circuit, ce qui va vous amener le plus d'argent, en fait.
C'est ça, qui va vous amener le plus d'argent. Vous n'êtes pas obligé de jouer les propriétaires, mais il va se passer plusieurs choses dans cette campagne. Mais on part du principe que c'est une campagne marchande qui va se dérouler dans les Sword Worlds, c'est une région dans laquelle on a des sortes de vikings de l'espace.
Ça me fait penser, là tu l'as parlé, donc Sword Worlds, donc les mondes de l'épée, on parle de The Claw. Il existe une carte, je suppose que oui, hein, bien entendu. Et, alors cette carte-là, on la trouve où? Parce qu'il n'y a pas effectivement de carte dans le... Il n'y a pas de carte dans le livre de base, ni dans le Companion, par exemple.
Les cartes, tu les as de plusieurs façons. Tout d'abord, il y en a une en ligne, si jamais ça vous intéresse. C'est Traveler Universe. Vous pouvez aller voir, c'est énorme. Et ça, par contre, tu as les liens dans le... Update 2022, c'est dans le compagnon à la fin, on t'explique comment t'orienter et comment gérer dans le Traveler Universe. C'est une carte en ligne, vous pouvez aller chercher les endroits qui vous intéressent. Et sinon, vous avez des cartes, par exemple dans Behind the Claw, vous avez les cartes qui sont là, ici, voilà, vous avez les différentes choses. Donc on voit le Zodani Consulate, donc le consulat Zodan, les Vargres qui sont des hommes loups. Voilà, ce genre de choses.
On précise aussi hein, qu'il y a 1 milliard de règles pour créer votre planète et tout ça. Hein.
Vous avez des supplémentaires pour créer vos planètes avec des formules mathématiques. D'ailleurs, c'est aussi une des choses qui me faisait peur. Les formules mathématiques, je pensais que c'était très, très poussé de ce point de vue-là. Et en fait, pas du tout. Ils vous mettent les formules mathématiques si ça vous intéresse, mais si ça ne vous intéresse pas, vous avez des calculs déjà préfaits, des choses préfaites pour ne pas faire de calculs. Quand on vous dit de multiplier par la racine carrée de longueur par je sais pas quoi... Moi, ça me faisait peur, et puis voilà.
Et puis pour les conversions Fahrenheit Celsius, je pense que la VF s'en surgera.
Oui aussi. Et évidemment, dans les suppléments de contexte, comme la Behind the Claw, il y a des cartes.
C'est pareil, Behind the Claw, il est plus épais que le bouquin de règles.
Il est très épais, mais comme je te dis, avec le papier, des fois, on se fait avoir. Il fait 284 pages.
Ouais,
on dira un bouquin de 500 pages.
Ouais, tu vois, 260 ici. Hein.
Ouais. Mais à l'intérieur, chose importante à savoir, 284 pages, mais vous n'avez que les, je crois, 50 ou 60 premières qui vont être vraiment une description générale et toutes les informations que vous avez besoin de connaître à la base. Tout le reste, ça va être secteur par secteur, enfin sous-secteur par sous-secteur, la précision sur les planètes les plus importantes, les X et les Y de tout cela. Mais vous n'avez pas besoin de tout savoir et de tout lire. C'est une encyclopédie, si vous préférez.
On recontinue avec tes campagnes ?
Oui, on recontinue avec les campagnes. Donc, Skandersvik, qui se joue avec l'extension Sword Worlds pour savoir un petit peu où est-ce qu'on joue. Donc là, c'est une campagne marchande. Donc, vous voyez, là, ils ont fait le choix de...
Lui qui a dans l'espace. Vous voilà, avez du bois, vous devez aller récupérer, faire des meubles.
Mais d'ailleurs, il faut savoir une chose, ils se sont amusés avec les clichés qu'on a, nous, sur les vikings, avec les casques à cornes, etc., les barbares sanguinaires, et ceux qui viennent des Sword Worlds, qui sont clairement des vikings, qui ont des noms comme Olaf et autres trucs comme ça, eh bien, ils sont vus par les autres par le reste de l'Imperium, etc. Ils sont vus comme des barbares un petit peu sanguinaires. Quoi. Voilà, il y a les mêmes clichés.
Tu nous parles de... Alors, pendant que là, tu cherches l'autre campagne, tu nous parles de l'Imperium. On a les noms d'empereurs ?
Oui, bien sûr. Stéphron.
Ça s'appelle comment ?
Stéphron. Stéphron, c'est l'empereur qui est actuellement en place pendant l'ère de jeu de la V2.
Il est sympa ?
Il est très sympa. Alors, ça, c'est un des points qui m'a vraiment marqué. Vous pouvez voir... Attends. Je suis perdu dans tous mes suppléments.
Non, ouais, vas-y, justement, c'est ça qui est super.
Attends. Je l'ai là. Ici. Voilà. Stréphon, il est là. Ici. Vous avez un bouquin, Sœur d'Imperium. Pour moi, c'est vraiment... Si c'est l'univers qui vous intéresse, vous devez lire ça. Puisque vous avez l'empereur, sa conjointe et sa fille qui est là. Et ils sont sympas. Et c'est ça, un truc qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est... Donc, le Sœur d'Imperium, c'est le troisième, parce qu'il y en a eu deux autres avant, bien évidemment. Mais celui-là est basé sur une règle de non-agression. En gros, je vous la fais très très court, parce que je pourrais repasser une autre heure avec Mathieu pour vous expliquer tout ça. Il y aura des vidéos sur la chaîne pour expliquer tout ça. Mais le deuxième Imperium s'est crashé pour plein de raisons. Et les planètes, les sous-secteurs sont éloignés, très très éloignés les uns des autres. D'accord. Et les communications n'étaient plus possibles. Chacun a commencé à faire sa petite vie dans son coin. Il y a d'autres petits empires qui se sont créés, etc. Et puis, un jour est arrivé un empereur, qui n'était pas encore empereur à l'époque, et qui a été simplement voir ses voisins, les planètes voisines et les secteurs voisins, petit à petit. Et il s'est bâti une puissance commerciale à l'origine. Et ensuite, il a simplement été voir les autres en disant « Rejoignez-nous, vous bénéficierez de notre protection, vous bénéficierez de ci, de ça. On n'interfère pas dans vos lois, on n'interfère pas dans vos coutumes. Juste, on est ensemble, si vous avez besoin de nous, on est là. » Et c'est comme ça que le Sœur d'Imperium a grossi. Ça a coincé à deux, trois moments. Il y a eu des empereurs qui ont été des dictateurs sanguinaires, des racistes. Il y a eu beaucoup de problèmes comme ça. Les Vargres, notamment, ont été...
Est-ce que il y a un supplément Second et First Imperium ? Je suppose que oui.
En fait, c'est dans... c'est expliqué dans le Third, mais tout ce qui était avant, c'est un petit peu juste expliqué, mais pas dans le détail. Dans le supplément.
Et quand tu parlais tout à l'heure de l'évolution de la chronologie par rapport au jeu quand il sort dans les années 70, fin des années 70, on est toujours avec ce troisième Imperium ?
Oui, on est toujours dans le troisième Imperium.
Okay, le jeu a commencé avec ce troisième Imperium. D'accord.
Oui, c'est ça. Il y a eu d'autres éditions qui se sont attardées, comme je disais tout à l'heure, sur des temps passés. Par exemple, les Interstellar Wars, c'est quand des humains qui viennent d'ailleurs, qui ont été emportés par les anciens, ont rencontré les Solomani. Les humains de la Terre, étant ce qu'ils sont, ont dit bah, « c'est nous, en fait ». On est l'origine de l'espèce humaine. Les autres ont dit bah non. Et ça a commencé à se tailler. Finalement, les humains de la Terre ont gagné. Solomani, etc. Ça a commencé à se multiplier jusqu'à maintenant. Donc, le troisième Imperium, qui est un empire en paix, plus ou moins. Il y a des problèmes, notamment avec les Sword Worlds. Il y a des conflits, un peu une guerre froide qui se passe entre les deux. Mais chacun respecte à peu près les terrains de l'autre. Les Odani, par exemple, ne font pas partie du troisième Imperium pour plein de raisons, mais notamment les psioniques. On n'en a pas parlé, mais il y a la possibilité d'avoir des pouvoirs magiques dans.
C'est ça qui est. Si on veut tout jouer, on est
par là. Ah oui,
je pense que c'est mieux. Parce que, tu vois, en fait, là, je prépare une vidéo sur la fantasy contemporaine où, par exemple, tu as des univers, je pensais à City of Mist, où tu as tout. C'est-à-dire que ça va du petit poussé à Zeus en passant. Il y a un moment, en fait, quand il y a une impression de vertige, j'ai l'impression que finalement, ça n'a même plus vraiment de structure quand tu as accès à tout. Parce que c'est ça aussi dans Traveler, c'est qu'il y a tout. Il faut faire des choix. Et tu vois, c'était une des choses que je reprochais, entre guillemets, à cet extraordinaire jeu qui était Eclipse Phase. C'est le fameux contact avec les extraterrestres où finalement, il est relégué au deuxième, troisième plan, alors que ça aurait dû être quelque chose d'assez révolutionnaire.
Ah, mais c'est pas ça qui est important.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est oui, en fait, les gars, on est aussi au courant qu'il y a eu un contact extra. Ah, ça fait beaucoup. Donc, ouais, puis c'est vrai qu'on, voilà, on a tout ça. Vous voulez du psionique, bah, le mental et tout ça, hop, c'est parti.
Et quand je vous disais respecter les cultures de l'autre, etc., bah justement, les Odani sont des humains, mais qui ont toute leur culture est basée sur l'utilisation des pouvoirs psioniques. Donc la télékinésie, les choses comme ça, toute la culture est basée là-dessus. Il y a eu des problèmes avec ce genre de pouvoir, un petit peu comme dans Polaris, pour ceux qui ont la référence, mais il y a eu des problèmes avec ce genre de pouvoir dans le Sœur d'Imperium. Je ne sais pas comment il va être traduit d'ailleurs par Mnemos, troisième empire ou quelque chose comme ça. Mais il y a eu des problèmes et aujourd'hui, les psioniques sont mal vus, voire interdits à certains endroits. Et donc, c'est deux forces qui se battent un petit peu. Mais reprenons un petit peu le cours de nos aventures et de nos campagnes. Donc là, je vous ai présenté une campagne marchande, Skandersvik. Il faut savoir que beaucoup d'aventures officielles mongooses sortent sous la forme de petits livrets comme cela. D'accord. Et celle-là, tu en as peut-être déjà entendu parler, Mathieu, Mysteries on Arcturus Station, c'est une des plus vieilles aventures Traveler qui a été remise au goût du jour par un youtubeur, d'accord, Nemos, je suis disponible, mais, c'est une aventure qui a été remise au goût du jour par un des plus grands youtubeurs sur Traveler, et je dirais pas dire son nom, Skoskorski, quelque chose comme ça, qui a une chaîne YouTube aussi, et donc c'est lui qui a réécrit cette aventure là. C'est une aventure qui a traversé le temps, c'est une enquête à bord d'une station spatiale dans laquelle il y a un meurtre et un vol de vaisseau.
Ce youtubeur, c'est un joueur de Traveler de la première heure ou c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard?
C'est quelqu'un qui a découvert avec la V2 de Mongoose, comme
excellent.
Moi. En fait.
C'est excellent.
C'est Mongoose qui l'ont contacté pour savoir s'il voudrait parler de leur jeu. Et il l'a lu et il est tombé amoureux. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses sur Traveler.
Si tu vois, rien que ça, ça fait vraiment voler en éclats tous ceux qui diront que c'est un truc de vieux, d'ancien. Voilà, ça prouve à quel point il y a cette diversité. Alors, une autre campagne?
Ouais, alors juste avant les campagnes, juste j'aimerais parler de deux aventures en plus. Alors déjà, pour vous montrer un petit peu le genre d'aventure qu'on peut faire, celle-là je l'ai fait jouer, Invasive Species, donc les espèces invasives, mais qui envahit l'autre? C'est ça la vraie question. Mm-hmm. Ce que vous voyez là, c'est un Shakuzarpi. Les Shakuzarpi vivent sur une planète qui est en rotation gravitationnelle autour de deux étoiles. Autour d'une étoile, il y en a une autre qui passe un petit peu plus loin, ce qui fait que la majorité du temps la planète est dans un hiver quasiment permanent, et il y a un moment dans l'année pendant quelques semaines où l'étoile se rapproche suffisamment pour éclairer un petit peu et dégeler une partie des glaces, et c'est là-dessus D'accord. que vivent ces créatures là et toute l'aventure va être un jeu télévisé. On doit aller capturer une de ces créatures-là pour la cuisiner. Une tradition culinaire, voilà, d'une race, d'un peuple. Et donc, on doit aller chasser cette bête-là. Et suivant le moment où vous arrivez, parce qu'en plus, on vous confie un vaisseau, c'est une espèce de poubelle, plein de trucs. Et suivant au moment où vous arrivez, soit les créatures dorment, soit elles sont pleinement réveillées, soit elles sont en train de se réveiller. Et donc, il faut jouer avec la Twilight Zone. La zone
intermédiaire, oui, le crépuscule. Ouais, et je suppose que le fait qu'on les mange et tout ça, ça fait partie d'un duel moral pour les joueurs.
Oui,
enfin, d'un dilemme moral.
Et c'est encore pire que ça, je ne vais pas spoiler l'aventure, mais c'est toute la mise en scène autour de cela, puisque c'est des caméras télévisées qui vont vous suivre, qui vont filmer la chasse, parce que c'est des nobles qui organisent ça. Les nobles, ils ne vont pas se salir eux-mêmes, donc ils envoient des équipes pour aller chasser la créature, là où c'est le plus dangereux, la ramener sur leur planète dans un environnement contrôlé. Plus ou moins, vous verrez en lisant l'aventure. Et ensuite, eux vont se mettre en scène avec toujours les joueurs, donc les Travelers, pour aller chasser la créature et ensuite la cuisine.
Alors, on a... Donc là, tu nous as parlé donc, de ce petit scénario. L'autre qui est là.
L'autre, celui-là va parler à tous les Français, je pense. La cloche de Rocamadour. Rocamadour, comme la ville en France, parce que la France, c'est important pour Mark Miller, j'ai l'impression, et GDW à l'époque. Et dans l'univers Traveler, il y a beaucoup de références à la culture française, beaucoup, beaucoup. Donc, la cloche de Rocamadour, eh bien, vous êtes engagé pour aller ramener une cloche qui vient de Terre, de Rocamadour, jusqu'à une autre planète, pour une colonie constituée de singes. Vous devez ramener la cloche et ramener aussi les ouvriers, qui sont des singes, sur une planète qui a été donnée à des singes. Et ça crée énormément de problèmes. Il y a énormément d'enjeux et de conflits moraux dans cette histoire.
Je viens de voir là, tu as présenté donc sur les deux aventures, j'ai vu que c'était écrit Solomani Adventures 1, Core Adventures, donc c'est-à-dire que tu as parlé tout à l'heure des mercenaires, enfin les aventures ont toutes des sous-thèmes en quelque sorte.
Oui, c'est ça.
Je suppose que quand c'est Core, c'est très très générique.
Ça va se passer au cœur de l'Imperium généralement à peu près. Solomani, ça va se passer dans l'espace Solomani, donc du côté plutôt de la Terre. Ça, c'est pour acheter en fonction de là où sont vos joueurs, parce que les aventures ont une particularité. Elles peuvent très souvent être jouées juste en one shot, indépendamment, mais bien souvent elles sont faites pour être intégrées dans vos campagnes en cours. Et donc on vous dit, voilà, si t'es dans l'espace Solomani, ça là tu peux y aller, puisque ça se passe à peu près dans la région.
Alors. On va passer. Alors, il nous reste environ une dizaine de minutes avant la fin, et on va passer aux campagnes. Et puis après, j'aurai deux autres petites questions à te poser. Et puis je veux savoir ce qu'il y a dans cette boîte.
Oui. Il y a aussi des recueils qui sortent comme ça, des recueils de scénarios qui sont à la base des petites aventures comme ça qui ont été compilées ensemble, et vous pouvez avoir ça. Je pense que ça, c'est le recueil de scénarios pour commencer. C'est parfait.
Tu peux redonner le nom, s'il te plaît,
Marches Adventures. Donc là, ça se passe au niveau des Spinward Marches. C'est pas
Adventure. D'accord.
Dans le club.
Et c'est écrit volume 9, donc il y en a 8 avant.
1 à 5, c'est-à-dire que c'est une compilation des aventures 1 à 5.
D'accord, j'ai cru que c'était écrit.
J'ai parlé de la première sur ma chaîne.
D'accord.
Je parlerai des autres qui sont dedans. Donc au niveau des campagnes, Traveler est connu pour plusieurs campagnes mythiques. Tout d'abord, Secret of the Ancients, qui est l'aventure que je fais jouer en actual play sur la chaîne. Oui, c'est épais. Ça fait 250 pages. C'est pas si épais que ça. Secret of the Ancients, c'est très 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 connu comme campagne. C'est une campagne qui va bouleverser l'univers de Traveler. Ça va vraiment bouleverser.
Est-ce que les campagnes se parlent les unes aux autres?
Ça dépend en fait. Ça dépend ce que tu appelles se parler. On peut avoir
C'est-à-dire que là, tu dis Secret of the Ancients bouleverse le secret de l'univers. Et ça, c'est ce type de campagne qui sont en fait des introductions. C'est-à-dire qu'elles amènent des conséquences. Et est-ce qu'il y a une campagne après qui renvoie à ces événements qui changent tout?
Oui, mais elle n'est pas encore sortie. Elle arrive bientôt. D'accord. C'est La colère des anciens. Wrath of the
Ancients. Secret. Okay. On sent que les choses ne vont pas bien se passer.
C'est l'adaptation d'une campagne parue dans les années 80. Je ne sais plus le nom exactement. Ce n'était pas Secret of the Ancients, mais c'était quelque chose. Mysteries of the Ancients, je crois que c'est ça. Mm-hmm. Et de cette campagne-là, ils l'ont refaite. Et maintenant, il y a un sequel et un préquel. Donc, préquel, ça se passe avant, elle est sortie. Et il y a le sequel qui va sortir. Ça, c'est Secret of the Ancients. Mm-hmm. C'est là qu'on parle après. Oui, si, je vais en parler maintenant. La plus connue, la plus mémorable,
c'est
Pirate of Drinax. Celle-là, c'est une campagne juste folle, qui est très 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 connue parmi les amateurs de Traveler. C'est un coffret avec campagne ici, la région dans laquelle ça se passe, et puis des vaisseaux, vous voyez, il y a encore un espace, c'est pour des cartes et autres choses.
Attends, ça doit demander des années pour jouer ça.
Je ne l'ai pas encore fait jouer. C'est très 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 compliqué, puisque c'est aussi des campagnes majoritairement bac à sable. Dans cette campagne-là, vous êtes engagé par un roi qui est le roi de à peu près plus rien, c'est le roi de Deneb. Mm-hmm. Et de Drinax qui se passe dans Deneb. Et il vous engage pour venir déstabiliser le commerce dans la région. Donc vous pouvez jouer des pirates, et il vous engage pour venir foutre la merde chez ceux qui l'embêtent un petit peu. Et c'est une campagne qui... C'est du bac à sable complet. Vous êtes libre complètement de faire ce que vous voulez. Il y a 2-3 événements clés que vous devez jouer pour maintenir la campagne. Mais sinon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et c'est complet du bac à sable. Vous pouvez carrément aller prendre sa place et devenir vous, fonder un empire, votre empire à vous, enfin votre royaume, etc. Cette campagne-là, elle est suivie, enfin elle est aidée par le compagnon. le Twin Axe and Companion.
J'imagine les gens chez Mongoose qui sont attachés à...
Ça va être quelque chose.
Ils doivent s'envoyer des messages secrets avec ceux qui font Pathfinder, tellement ils produisent
des trucs. Je pense aussi. Mais c'est là, Twin Axe and Companion, c'est vraiment une aide pour vous aider à préparer la grosse campagne qui est juste en dessous.
Énorme.
Et vous pouvez jouer, si jamais vous voulez juste un avant-goût, Shadows of Sindal. Celle-là, elle se passe avant. C'est un spin-off, elle peut être inclue dans la campagne, mais sinon c'est un spin-off.
Alors, juste une petite chose, c'est des couvertures spéciales, là, celles que tu...
Non, c'est des couvertures d'origine. Et je ne sais pas pourquoi ils font certaines couvertures différentes, d'accord, comme ça. Il faut savoir que c'est mon goût, c'est cher. Par exemple, le compagnon, il est à $49.99. Donc $50 le compagnon d'une campagne.
Bah là, ce jeu-là, est à, le update, il est à $60.
Voilà.
Et pareil, un compagnon, 49. Ouais.
La campagne du Unax, c'est $129.99.
Voilà. Ouais, t'as intérêt à y jouer. Hein. Après, encore une fois, si c'est un truc où tu peux jouer pendant des années, ça coûte pas cher. Si c'est en revanche un truc qui est fait pour terminer dans ta Kallax, autant acheter une lampe. Quoi.
Et laisse-moi terminer, Mathieu, par te parler de la plus chère de toute ma collection de jeux de rôle.
Vas-y. C'est attends, la même pas la boîte, même pas. Mais qui a-t-il dans cette
boîte ? J'arrive là. Alors, c'est une campagne. Ok ?
Ça ?
Oui, mais tu vas comprendre.
Vas-y.
D'abord, il y a la boîte Great Rift. Ici, c'est un ensemble de cartes et c'est un supplément pour savoir mener des aventures dans cette région de l'espace qui n'est pas cartographiée. On ne sait pas. Vous voulez faire de l'exploration, c'est votre truc. Vous voulez découvrir de nouvelles choses, c'est là-dedans que vous allez aller, Great Rift, et vous allez découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles planètes, de nouveaux peuples complets, et vous avez tout pour jouer et générer vos cultures, etc. à l'intérieur de cela. Bon. Ça, donc, c'est un supplément qui est là pour vos aventures. Voilà. Et ensuite, il y a la plus belle, Deep Night Revelation. Ça, c'est une campagne. C'est une boîte, c'est une campagne. C'est du bac à sable. Vous allez être membre d'équipage de ce vaisseau, le Deep Night Revelation, et vous allez partir dans Great Rift vers un point donné. D'accord. On ne sait pas pourquoi, il y a une aventure qui se joue en fait, qui s'appelle Deep Night, j'ai oublié le nom, Deep Night quelque chose, Endeavor, Deep Night Endeavor, qui vous permet de découvrir qu'il y a quelque chose de bizarre qui doit se passer très 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 loin là-bas, et ça pourrait affecter le Third Imperium. Et la compagnie Deep Night est une entreprise...
Est-ce que ça peut affecter ou infecter ?
Je ne dirais rien.
D'accord.
Les deux peut-être. Et donc, cette entreprise, Deep Night, affrète un navire, le Revelation, pour explorer et découvrir l'origine de ce mal. Qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Vous êtes membre d'équipage de ce vaisseau, et c'est formidable parce que le jeu ne fait pas le syndrome Star Trek. Star Trek, il y a un problème sur une planète, il y a un endroit, on va mettre le capitaine, le médecin de bord, le second et un ou deux red shirt, histoire qu'il y ait quand même des gens qui puissent souffrir. Mais on va mettre tous les membres les plus importants dans la même navette qui vont partir. Et au niveau des règles, ils vous disent que vous pouvez faire ça si vous avez envie, mais on vous conseille de générer plusieurs personnages. Le commandement et les subordonnés.
Système de troupes. De troupes, dans le sens ce qu'avait fait Ars Magica notamment.
C'est vrai.
Tu as les costauds et puis les petits, les 100 grades, ça fait différents types d'histoires, oui, tout à fait.
Ouais. Et donc, vous allez prendre les décisions sur où est-ce qu'on va aller, est-ce que ça vaut le coup d'aller explorer telle ou telle chose avec vos personnages de commandement, et vous allez jouer les décisions de ces personnages avec d'autres personnages qui vont être les subordonnés. Et vous êtes à bord d'un énorme vaisseau qui est là pour voyager sur plusieurs années. C'est très, très long. Et vous avez tout dedans pour générer vos aventures qui vont s'y passer. C'est du gros bac à sable. Le MJ ou la MJ va devoir faire ses aventures.
Alors qu'on écrive des lettres à Mnemo, hein, parce qu'il va y en avoir des trucs à traduire. Hein.
c'est $80 la boîte.
Okay. D'accord. Bon, après, ce genre de prix, c'est... voilà, enfin, quand tu sais que tu peux jouer après, oui. c'est quand tu l'achètes, tu sais si tu vas y jouer ou pas. Donc
non,
ça,
on est...
Donc ça, c'était Donc là, c'est le début de la campagne, c'est ça ?
C'est pas le début, c'est la campagne entière.
D'accord.
Mais, laisse-moi arriver avec ceci. Six bouquins. Et là, en fait, ça va être des suppléments d'aventure par endroit. Donc là, par exemple, je crois que c'est ça, c'est 5, ouais, ça. Le 5, en fonction de là où vous en êtes dans la campagne, là où la MJ peut aller chercher dans ces bouquins-là des choses à faire. Si il ou elle est en panne d'inspiration.
Sachant que dans la campagne déjà de base, il y a plein de trucs qui sont donnés pour pouvoir t'occuper.
C'est à toi de les faire, c'est à toi de les générer, c'est à toi de les imaginer. Mais si vous n'êtes pas grand improvisateur, vous n'avez pas forcément d'idées, vous pouvez aller piocher là-dedans et il y a plein de choses qui se passent et on vous dit, bah voilà, dans cette zone-là à peu près, et vous pouvez faire ça. Et il y a énormément de choses à faire, voilà, de culture à découvrir. Si vraiment vous rêvez de jouer une campagne de premier contact, d'aller explorer de différentes cultures, c'est celle-là qu'il vous faut. Je sais que Druinax, c'est la meilleure, mais moi, j'ai vraiment un faible pour Deep Night Revelation, et j'ai même les dés, Mathieu.
Voilà. Ah non, voilà, c'est bon, là, tu m'as convaincu.
J'ai les dés Deep Night Revelation. Et,
alors, ils ont... Attends, je te fais en solo. C'est-à-dire qu'ils ont fait, sachant que le jeu se joue avec des dés à 6 faces, ils ont fait un set de dés Alors, plusieurs dés pour une campagne.
Oui, il y en a aussi la boîte Mercenary, ils l'ont fait aussi.
Comment est-ce que Mongoose fonctionne ? Ils fonctionnent en financement ? Ils sont en...
Ça dépend. Non, la majorité du temps, c'est sans financement.
Oui, c'est bien ça, parce qu'on ne les voit pas passer, effectivement.
Ouais, non. Pour certaines choses, comme les journaux que je parlais au début, les journaux de la Traveler Aid Society, ils les ont réédités. Ça, ils ont fait des financements pour les rééditions de tout cela. On les trouve maintenant sur leur site internet. Et ça va très bien. Généralement, ces campagnes-là, Druinax et Deep Night, je ne suis pas sûr. En tout cas, Druinax, il y a une bande-son qui est sortie pour la campagne. Et voilà. Ce sont des campagnes qui sont extrêmement longues à jouer, que ce soit Secret of the Ancient comme les autres. Elles sont très, très longues à jouer. Mais honnêtement, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas du tout. Et juste si je peux terminer là-dessus, à moins que tu aies une question à me poser, Mathieu.
Non. Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans cette boîte.
Majoritairement dans les boîtes, c'est...
Non, dans la boîte, il y a une boîte que tu avais, tu as dit, ah, ça c'est pour plus tard. C'est derrière toi.
Elle est très lourde.
Ah oui, c'était pour ça que je voyais ça.
Je peux te montrer rapidement ce qu'il y a dedans. Les trois quarts, en fait, ce sont des cartes. Voilà, ça, c'est des cartes de tout cela. Parce que ça, c'est une particularité de Traveler. J'explique très très rapidement si tu me...
Oui, bien sûr, vas-y.
Je suis en train de faire un hold-up du café rolliste 9h.
Un petit peu, mais bah, ça va finir en café déjeuner.
Café déjeuner.
C'est un brunch rolliste.
Vous avez, en fait, quand vous faites de l'exploration en Traveler, eh bien, vous allez vous déplacer en hexagone. C'est de l'ex-crawl. Quand vous faites des sauts avec votre vaisseau, on voyage pas plus vite que la lumière. En gros, on crée une dimension de poche pour ressortir à un autre endroit. C'est pas exactement pareil. Mais on n'avance pas vraiment. C'est compliqué. Chaque voyage va durer à peu près une semaine. Suivant le vaisseau que vous avez, on va avoir des capacités de saut plus ou moins grandes. Si vous avez une capacité de saut de 1, eh bien vous allez bouger de 1x. Une semaine pour 1x. Par contre, si vous avez une capacité de saut de 6, eh bien vous allez bouger de 6x, mais une semaine toujours.
D'accord.
C'est à peu près une semaine. Il peut se passer des problèmes pendant tout cela, c'est si vos calculs sont bien faits.
Attends, parce qu'en fait, tu m'as pas montré le couvercle de la boîte. C'est quoi, en fait, la boîte ?
Là, c'est Gridlord.
C'est,
voilà. C'est la grande faille. Okay. Et donc, dans la boîte, il y a majoritairement des cartes et ensuite, eh bien, des choses pour vous aider. Donc là, c'est sur l'exploration de l'espace profond.
C'est ça, en fait, c'est là où je suis vraiment très, très surpris, parce que moi, dans ma vision de Traveler, et puis dans ce que j'avais pu voir quand j'étais allé outre-Atlantique dans différents magasins, c'est que j'avais pas vu de boîte. En fait, je voyais des bouquins, mais ouais, ou alors ça m'a échappé, hein, je pense.
Il y a beaucoup de boîtes.
Voilà, c'est pour ça que je suis très étonné et je suis très content d'apprendre cette chose-là.
Majoritairement, ça va être des boîtes sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on y trouve, comment gérer vos aventures là-dedans. Et un truc important avec Mongoose, les boîtes ont généralement un signet. Et donc, on pose ces bouquins dessus, on tire le signet, ils viennent tout seuls.
Très, très riche idée qui n'est pas assez faite. C'est quand tu es là, tu es en train de tout gratter avec tes ongles, tu es en train d'exploser le haut de ta feuille, que tu aimes ça. Alors, on va arriver justement sur la fin de l'émission. Et alors, j'aimerais bien que tu... De toute la gamme et tout ça, donc évidemment, on sait qu'il va y avoir une VF, mais allez, tu peux nous donner un supplément, ce qu'on appelle de référence,
ouais,
un scénario et une campagne que tu conseillerais.
Tout à fait. Alors, au niveau de tout cela, attends, parce qu'il faut que je remonte un petit peu.
Ah oui, mais ça, alors, puis après, est-ce que ça va être qu'il va falloir tout re-ranger?
Oui, ça va. Ça permet de retrier en même temps et de les reclasser.
Oui, c'est pareil. Oui. Ah, c'était là ce truc-là, je ne savais plus.
Ça dépend un petit peu où veulent aller Mongoose dans l'histoire, mais... Mnemos. Le livre de base, bon, ça, d'accord, c'est ouais, la priorité. Et l'écran, il y a une nouvelle version de l'écran, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais une nouvelle version, le Update 2024, qui va sortir. Mm-hmm. Je suis déçu à titre personnel, puisqu'on n'a plus cette fenêtre sur un cockpit. On a des personnages qui prennent la pose devant...
Ah, c'est ce que j'appelle... D'ailleurs, j'ai entendu l'expression à droite à gauche, c'est ce que j'appelle l'écran équipe de foot. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est l'écran. Voilà, ils sont tous là en train de poser.
C'est exactement ça.
Et alors que il y a ce qu'on appelle le miroir et puis la fenêtre. On a un superbe écran fenêtre avec ça. Et là, on a un miroir, on nous renvoie en fait. On nous renvoie ce qu'on veut faire.
Personnellement, je ne l'aime pas, l'illustration. Je préfère ce tableau de bord avec ce petit dinosaure posé.
Je suis d'accord avec toi.
Au rétroviseur, même si c'est vrai que l'intérieur est un petit peu vieillot, il aurait pu être refait.
De toute façon, oui, c'est une des choses, on ne faut pas s'attendre à avoir des dessins ou des illustrations qui soient c'est pas l'équipe artistique de The Expanse. Voilà, on va dire les choses très très clairement, mais c'est pas là le but du jeu.
Il y a quand même beaucoup d'augmentation cybernétique et de choses comme ça. Je veux dire, vous n'êtes pas non plus en train de jouer à BattleTech, pour ceux qui connaissent BattleTech, où on est dans de la ferraille, vraiment, c'est fait pour être utilisé. Voilà. On est quand même il peut y avoir des robots, comme vous voyez ici dans le supplément derrière moi, où là on a des robots ménagers, des robots Elvis aussi, c'est des robots qui chantent, il y a plein de choses comme ça, mais on n'est pas forcément dans des choses très dépassées, on n'est pas dans un futur usé forcément. Donc, je disais, pour revenir sur ta question, donc Mnemos, le livre de base, le compagnon qui est pour moi important. En termes d'aventure, moi, j'irais bien traduire le March's Adventures, parce que à l'intérieur, il y a des aventures parfaites pour démarrer, et un petit peu plus. Je pense que commencer avec des aventures comme la cloche de Rocamadour, c'est pas une bonne idée, puisqu'il faut déjà avoir un équipage en place, il faut déjà avoir un vaisseau. C'est pas tout le monde qui commence avec un vaisseau. Un vaisseau, vous le payez, hein. Il y a des traites, etc. C'est pas forcément donné. Mais vous pouvez avoir comme dans la première aventure de ce recueil-là, vous pouvez avoir un vaisseau qui va vous être prêté par la suite. Vous faites une aventure, vous allez pouvoir récupérer un vaisseau. C'est une aventure de laquelle j'ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai déjà fait une version spoil, etc. Mais vous allez récupérer un vaisseau et après, vous êtes capable d'aller plus loin. Mais au début, vous pouvez commencer en étant piéton. Donc, moi, j'irais traduire ce supplément-là qui est un recueil d'aventures. Et ensuite, en termes de campagne, c'est là un petit peu que l'histoire se complique parce que il y a beaucoup de suppléments. Et Traveller, c'est un jeu où les suppléments se répondent entre eux majoritairement. Tu vois, pour une campagne qui vaut 80$, à la fin, elle m'a coûté près de 700 avec tous les suppléments et tout le... Voilà. Parce qu'il faut savoir dans quel contexte tu joues, il faut savoir...
Précisément, donc moi, je vais retourner ma question. Donne-moi un supplément où je veux découvrir l'univers Traveller.
Secret of the Ancients.
Secret of the Ancients, d'accord.
Au niveau campagne.
Un supplément de contexte où je veux découvrir l'univers Traveller.
Behind the Claw,
qui d'ailleurs a été annoncé. Third Imperium avant, après ?
Third Imperium juste après. Les deux pour moi vont vraiment ensemble, mais Third Imperium c'est vraiment s'attarder sur l'histoire de l'Empire, nanana. Behind the Claw c'est vraiment pour jouer dedans.
D'accord, ok, très bien. Et pour la dernière, le supplément qui te fait chaud au cœur, toi, celui que vraiment pour lequel tu as une affection toute particulière. Je sais, c'est comme choisir entre ses enfants.
Spinward Extend, que j'ai pas sorti, mais qui est un gros bouquin comme Behind the Claw qui s'occupe d'une autre région de du Chartered Space. Voilà.
D'accord. Et je te remercie beaucoup pour bien entendu l'heure de diffusion. Ils ont peut-être écouté pendant le footing et puis ça va être l'heure de midi. Mais en tout cas, c'était passionnant, vraiment passionnant, et je te remercie d'avoir rendu hommage avec beaucoup de précision, de passion, de concision. Et c'est rare d'avoir les trois en même temps à ce jeu. Ça donne envie de jouer, ça donne envie, et puis même pas forcément de jouer, mais ça donne aussi envie de lire, parce que c'est une grande évasion à chaque fois. Et comme je le précisais aussi, moi, j'ai beaucoup aimé lire la création de personnages, parce que même si tu sais que tu ne vas pas jouer tout de suite, tu peux déjà imaginer plein de choses. Et quand tu multiplies par le nombre, que tu multiplies par le nombre de joueurs à le faire, on a des histoires. Et c'est d'ailleurs aussi, c'était un des cas quand les personnages mouraient lors de leur première création auparavant, ça crée aussi des éléments d'histoire, parce que les personnes pouvaient recommencer en disant, tiens, je le connaissais.
Ouais. Parce que... deux, trois petites précisions. Quand vous faites la création de personnages, vous allez avoir des contacts, des liens avec d'autres PNJ, d'autres personnages. Vous allez fonder vraiment des relations entre tout cela.
Et on ne l'a pas précisé, il y a aussi des kits de... Une fois que vous avez tout fait, on vous propose des kits de compétences à choisir en fonction de votre activité, qui sont des kits de compétences des compétences très générales, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément celles auxquelles on va penser lorsqu'on fait sa création de personnage quand on est...
C'est venu aussi pour redistribuer des skills qui sont très importants dans Traveler. Je parle par exemple à Astrogation, donc Astrogation, oui. Astronavigation. Si vous n'avez pas ça, ça va être difficile de faire des calculs pour faire les sauts. Et donc, à la fin de votre création de personnage en groupe, vous allez choisir un package où va y avoir pas mal de skills dedans, qui sont les skills indispensables pour ce type de campagne.
Et donc, elles sont distribuées aussi entre les joueurs. Et
après, donc, dans ce paquet-là, vous allez distribuer les compétences entre les différents joueurs pour venir faire en sorte que votre objectif de faire une campagne dans tel ou tel thème soit possible. Voilà.
Donc, un grand, grand merci à toi. Bien sûr, en description, on va mettre tous les liens vers ta chaîne, les actuels plays et tout ce que tu pourras faire. Et de toute façon, je pense qu'on va te revoir le matin ou le soir. On ne sait plus maintenant. On ne sait plus. Donc, un grand, grand merci à toi. Et comme je le dis pour ma part, je n'ai que deux choses à ajouter. Tout cela n'est que du jeu. Et que vos parties soient belles. Merci encore une fois à toi, Actelion.
Merci Mathieu. Mathieu, et merci tout le monde aussi. Et bonne journée. Ou bonne soirée.
Exactement. On ne sait plus maintenant.